Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans Apolline Matin. On est mercredi 29 avril, écoutez, c'était hier soir sur RMC.
On va voir ce qu'il y a, qui va aller déborder sur le côté gauche dans la surface de réparation, se met sur le pied droit.
Et 5-4 dans un match de légende au Parc des Princes, PSG Bayern Munich. Si vous avez vu ce match, vous vous en souviendrez, je pense, somptueux, dit le Parisien, prodigieux, dit l'équipe. Et vous, vous dites quoi au 32-16 ce matin? Vous avez déjà vu un match comme ça? On a eu droit à du grand football, de grandes émotions. C'est à la une du journal de 7h de Thibaut Texer dans un instant. Et juste après, on réveille Jean-Louis Tour, qui était au commentaire hier soir sur RMC. Puis Daniel Riolo passe en studio à 8h. Je vous attends ce matin au 32-16. Et vos messages, bien sûr, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. N'hésitez pas à prendre la parole. À la une aujourd'hui, le retour du site Coco, plateforme de rencontres anonymes qui a juste changé de nom, c'est Cocoland maintenant. Je vous explique, c'est une plateforme nommée dans 23 000 affaires pénales, agressions sexuelles sur mineurs, viol, trafic de stupéfiants, violence homophobe. C'est cette plateforme qu'utilisait Dominique Pellicot pour recruter les violeurs de sa femme. Eh bien, comment est-il possible que ce commerce perdure en ligne? Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on lutte assez contre la pédocriminalité en ligne? Ça vous fait peur? Est-ce que, question délicate, est-ce que vos ados ont déjà été approchés? Dites-le nous ce matin, racontez-nous au 32-16, entre autres sujets qu'on développe ce matin, à suivre le journal. Je vous l'ai dit, mais tout de suite la météo avec Charlène Villemer. C'est fini le beau temps?
On a une France coupée en deux entre l'Ouest et l'Est aujourd'hui. Alors à l'Ouest, on attend des orages en fait aujourd'hui. Ils sont déjà très présents ce matin en Bretagne. La perturbation, elle va évoluer toute la journée pour atteindre Bordeaux d'ici ce soir. Des orages aussi à prévoir sur le Pays Basque et puis près des frontières suisses à l'Est. Côté Mercure, ça chauffe. On attend des températures 3 à 5 degrés au-dessus des normales. On aura 22 à Metz cet après-midi, 23 à Rennes, 25 à Montélimar, 26 à Cognac et jusqu'à 28 degrés près d'Angoulême.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
17h sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un match qui marquera l'histoire du foot. Le PSG a remporté sa bataille face au Bayern Munich hier soir en demi-finale aller de Ligue des Champions, 5 buts à 4. Un témoignage RMC, celui de la mère de Manon Rolando. Elle espère avoir des nouvelles de sa fille disparue fin mars près de Nantes, après l'interpellation de son compagnon, c'était lundi en Algérie. Et le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, toujours hors service, impossible de refaire ses papiers d'identité en cause le renforcement de la sécurité du port après une cyberattaque mi-avril.
Je crois qu'on peut le dire, hein. Une soirée historique au Parc des Princes.
Le foot dans ce qu'il a de plus beau, 9 buts inscrits du jamais vu dans une demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens s'imposent face au Bayern Munich, 5 buts à 4, souvent brillants, parfois fébriles. Le PSG s'offre un petit but d'avance avant le match retour au terme d'une soirée Valentin Germain qui restera dans les mémoires.
Oui, Paris a beau avoir mené de 3 buts avant de voir le Bayern revenir à 5-4. Les supporters sont juste heureux d'avoir vécu ce moment d'histoire.
J'ai même pas les mots, quel match historique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu là? C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Hein.
On n'attendait pas tant, hein.
On a perdu la voix tellement que c'était beau.
C'était incroyable le scénario, on l'attendait vraiment pas. Quel moment?
9 buts marqués, c'est du jamais vu dans une demi-finale avec un scénario fou. Le Bayern a ouvert le score, puis Paris a donc compté 3 buts d'avance à l'heure de jeu avant de subir. Le milieu parisien Vitinha a du mal à réaliser.
C'est le meilleur match que j'ai participé. C'est un plaisir de jouer dans cet niveau. Tu te rends un peu quand tu joues, mais à la fin, c'est vraiment quand tu t'assis un peu et tu dis 5-4 quand même.
Des gestes techniques parfaits, des courses, des pénaltys, des stars, Dembélé, Olise, Kane qui marque. La presse étrangère parle d'apogée de la haute performance, de talent phénoménal et l'entraîneur parisien Luis Enrique est d'accord.
Ça a été un match incroyable. L'intensité du match a été exceptionnelle. Je suis tellement fatigué.
Son adversaire, Vincent Kompany, suspendu d'y avoir eu du mal à réaliser depuis les tribunes. Il sera bien sûr le banc mercredi prochain pour ce qui pourrait être un nouveau combat de boxe.
Et ce sera à vivre sur RMC, tout comme la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions qui oppose l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Arsenal ce soir, 21h. C'est à vivre en intégralité sur RMC, suivi de l'afterfoot et des nuits du Casar enchaîné.
Et on appelle Jean-Louis Tour, on le réveille juste après votre journal. Et vous, vous intervenez au 32-16, vous avez suivi ce match. Supporter parisien ou non, hein, d'ailleurs vous avez aimé le football que vous avez vu, 5-4, quel match on vous attend ce matin? Il est 7h03 sur RMC. Elle n'a plus donné signe de vie depuis plus d'un mois.
Manon Rolando, mère de famille de 31 ans, disparue fin mars près de Nantes. Sa fille de 15 mois également disparue a été retrouvée en compagnie de son père, interpellé lundi soir en Algérie. Arrestation qui redonne un peu d'espoir à la famille de l'agricultrice, sa mère. Attend des réponses. Notre correspondant dans l'Ouest, Martin Lange, a pu la joindre. C'est un témoignage RMC.
Le visage caché par ses lunettes de soleil, la maman de Manon Rolando attend désormais des réponses du conjoint de sa fille.
J'espère que Karim va dire la vérité, va répondre à toutes mes questions. Je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Hein, ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Et puis on t'aidera à remonter ça.
31 jours après la disparition de Manon, elle veut croire que sa fille est toujours vivante.
Et j'ai des moments... très sombre, de plus en plus sombre parce que le temps passe. Je me dis peut-être que c'est une illusion que je fais, peut-être que je me rende à l'évidence.
Manon avait rencontré Karim il y a 3 ans et demi via un site de rencontre. Un coup de foudre réciproque, mais très vite le comportement du conjoint alerte la famille.
À chaque fois j'y allais, il faisait une crise, il faisait des colères. C'est là que Manon m'a avoué qu'elle n'en pouvait plus, qu'avec Karim c'était très très compliqué. Et c'est là qu'elle a commencé, fin novembre, à me parler.
La jeune femme prend rendez-vous avec une association d'aide aux femmes victimes de violences début avril. Elle ne s'y rendra jamais. Désormais, sa maman espère avant tout revoir sa petite fille.
Ramenez-moi Inaya, ramenez-la en France. Sa vie, c'est en France aussi.
La petite fille de 15 mois est aujourd'hui en Algérie entre les mains de sa grand-mère paternelle.
À retenir également cette enquête ouverte par le parquet de Paris après la réouverture de la plateforme Coco, nommée dans 23 000 affaires pénales citées dans l'affaire Mazan. Le site avait été fermé en 2024. Il ressurgit dans une nouvelle version, désormais appelée Cocoland. Le principe reste le même, basé sur l'anonymat. Il permet notamment aux prédateurs sexuels d'entrer en contact avec de jeunes mineurs. Notre journaliste Julie Brault a pu le constater. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30.
Et la haute commissaire à l'enfance sera mon invité à 7h40 tout à l'heure sur RMC. 123 millions d'euros, c'est ce qu'il manque à la métropole Aix-Marseille pour être à l'équilibre.
Et pour marquer le coup comme un SOS adressé au gouvernement, les élus de la métropole ont renoncé hier à voter le budget pour 2026. Et la conséquence très concrète pour la métropole, c'est qu'elle pourrait, et c'est rare ici, Mana Jojard, se retrouver sous la tutelle de l'État.
Oui, à partir de vendredi, le préfet pourra saisir la Chambre régionale des comptes qui aura un mois pour formuler un budget. Entre-temps, les salaires des agents seront payés, mais il n'y aura pas de nouveaux investissements. Par ce geste, la métropole espère alerter l'État sur les conséquences de ces coupes budgétaires. Nicolas Isnard est son président.
Il manque 123 millions d'euros à la métropole pour équilibrer son budget. Ça correspond peu ou prou aux 120 millions qui ont été enlevés par l'État dans les dernières dotations.
Une décision soutenue par les 92 maires métropolitains, toutes tendances confondues, comme Benoît Payan, le maire de Marseille.
Il manque beaucoup d'argent dans les caisses. Cet argent, il manque parce que l'État se sert en partie dans les caisses des collectivités territoriales. Alors, il le fait à la métropole, il le fait au département, il le fait à la mairie de Marseille. Cet argent, il appartient aux habitants de ce territoire. Il sert à faire rouler des métros, il sert à ramasser les poubelles. Ce sont des impôts des Marseillaises et des Marseillais qui viennent combler en partie le trou de l'État.
En attendant le budget proposé par la Chambre régionale des comptes, la métropole prévoit de son côté d'engager un vaste plan d'économie sur ses dépenses.
L'ouverture des boulangeries et des fleuristes le 1er mai sous condition et en 2027, il faudra pour cela le vote du Parlement. Le gouvernement présente son projet de loi ce matin au Conseil des ministres et appelle pour cette année les inspecteurs du travail à la clémence. Vous l'avez peut-être constaté si vous avez tenté de faire vos papiers d'identité récemment, le site de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, est toujours hors service. Impossible d'accéder au portail depuis maintenant 5 jours en raison d'un renforcement de la sécurité du site, conséquence d'une cyberattaque d'ampleur qui a touché la plateforme mi-avril. Plus de 11 millions de comptes pourraient être concernés par un vol de données dans ces conditions difficiles pour les usagers d'entamer leur démarche. Reportage en Gironde de notre correspondant Pierre Bourgès.
Oui, pour renouveler ses documents d'identité, fini la pré-demande en ligne. Il faudra désormais tout faire en mairie, ce sera donc un peu plus long. Mais là où ça bloque vraiment, c'est pour passer le permis de conduire.
Depuis vendredi, là, j'ai mis à peu près une dizaine de dossiers en attente.
Sandra Carrasco est responsable d'une auto-école.
On a besoin d'un numéro, le NEPH, pour pouvoir démarrer la formation de pratique, ou même pour qu'ils passent le code, et ça on l'a pas.
Le ministère de l'Intérieur annonce une période de tolérance pour que les nouveaux élèves puissent démarrer leur formation pratique sans numéro NEPH, mais en attendant, les dossiers s'accumulent.
d'ici la fin de la semaine, là, ça va vraiment poser un problème. Au-delà, ça va devenir ingérable.
Pour les nouvelles cartes grises, si vous avez acheté un véhicule à un particulier, l'application simplimat.gouv remplace l'ANTS pour faire ses démarches. En revanche, si le véhicule est importé, ça peut coincer. Exemple, dans cette concession de véhicules américains, les clients de Nadège n'ont plus beaucoup de temps pour être en règle.
L'ANTS étant en panne, on ne peut pas reprendre le dossier, donc le dossier n'avance pas et le client ne va plus pouvoir rouler avec son véhicule. Alors, ils comprennent que l'ANTS a été piratée, mais d'un autre côté, ça les embête parce que ils savent que s'ils se font arrêter, ils peuvent avoir une saisie du véhicule.
Pour le moment, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée.
Et vous allez témoigner peut-être ce matin, la NTS, il y a le hacking, hein, il y a le piratage des données, et puis il y a le temps de remettre le site en marche. Vous devez, passer le permis, vous êtes moniteur d'auto-école, passez-nous un coup de fil au 3216 pour nous dire la galère que c'est en ce moment.
Les États-Unis ont vaincu militairement l'Iran. Nouvelle affirmation de Donald Trump cette nuit, à l'heure où Washington n'a toujours pas répondu à la nouvelle proposition de Téhéran qui prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz contre un report des négociations sur le nucléaire iranien. Et puis la première Coupe d'Europe de la saison pour un club français en basket. Bourg-en-Bresse a remporté l'Eurocoupe hier soir 73-71 face aux Turcs du Beşiktaş Istanbul. C'est le premier succès européen pour les Bressans.
Merci beaucoup Thibaut Texer. C'était le journal, il est 7h09.
Corner pour le PSG, c'est parti pour Dembélé, premier poteau, la tête, et but, le but, le but, le but, Joao Neves pour le coup de tête.
Et premier tout de suite, en direct, on retrouve Jean-Louis Tour, la voix du foot sur RMC, au commentaire de ce match légendaire hier soir entre le PSG et le Bayern. Jean-Louis, bonjour, première question, ça va la voix
bonjour
ce matin?
Bonjour Mathieu, ça va, on fait aller, non, ça va.
Parce que 9 buts, c'est une grosse moyenne.
Ah,
quand
c'était
même.
C'était quelque chose.
5-4 pour Paris, scénario incroyable, atmosphère irrespirable en fin de match en particulier. Déjà, le nombre de buts, c'est du jamais vu à ce stade de la compétition, Jean-Louis?
Non, c'est du jamais vu. Même à la mi-temps, il y avait déjà 3-2 pour le PSG. On avait déjà l'impression d'avoir vécu 3 matchs en 1. Et 5 buts en demi-finale de Ligue des Champions sur une mi-temps seulement, ça ne s'était jamais vu. Donc 9 en un match, non, c'est historique.
À un moment du match, les Parisiens ont mené 5-2. Le Bayern est remonté fort, 5-4 à la fin du match. Est-ce que ce matin, le PSG doit quand même avoir des regrets, Jean-Louis?
On peut se dire ça quand on passe de 5-2 à 5-4, parce que évidemment c'est pas la même chose avant le match retour. Aller à Munich avec un seul but d'avance, ça n'a rien à voir que s'il y avait une victoire 5-2. Mais en même temps, c'est la difficulté ce matin de faire la part des choses entre le match historique et le fait que sportivement Paris a un avantage minime. Mais en même temps, ça découle du match, c'est-à-dire qu'entre les deux équipes, il y a pas 3 buts d'avance comme il y a eu à un certain moment 5-2. On est plus proche de deux équipes à égalité. Les stats montrent ça, les stats générales du match. Donc c'est déjà bien d'avoir un avantage vu l'opposition des forces entre les deux équipes.
C'est déjà bien d'avoir un avantage face au Bayern Munich, on est d'accord. Eric est en ligne avec nous, on va l'accueillir, Jean-Louis. Eric en Haute-Garonne, et j'ai demandé, vous n'êtes pas supporter du PSG, appelez-nous. Eric, il regarde même pas le foot d'habitude. Bonjour Eric.
Bonjour.
Plutôt rugby d'habitude, hein?
Chez nous, en fait, à Toulouse, on a plus le rugby qui coule dans les veines, quoi.
Donc, et vous avez regardé quand même hier soir?
J'avais 2 heures à tuer hier, juste avant d'aller au lit, quoi, tranquille, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est mardi, allez, je vais regarder ce match de demi-finale. Mais j'ai été agréablement surpris.
C'est pas tout le temps comme ça, le foot, hein, faut vous préciser, alors, si vous n'avez pas l'habitude.
Ah ouais, et je peux vous dire que si vous mettez des foot comme ça, des matchs de foot en fait à la télé, mais vous allez claquer l'audience.
Eric, il veut des matchs comme ça. On en veut des matchs comme ça tout le temps, Jean-Louis Tour, hein, des 5-4,
oui.
Des matchs.
Alors là, en ce moment, dans le foot, on se dit souvent, et on se dit toujours ça d'ailleurs dans le sport, c'était mieux avant, à l'époque, il y avait moins de matchs, et les matchs qu'on voyait étaient plus qualitatifs, etc. Bon, toute cette réflexion, elle existe, mais franchement, vu le match d'hier, moi, le foot moderne, j'achète, c'est bon, je suis convaincu, et c'est parce que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas comme ça toutes les semaines. Des matchs de Ligue 1 un peu compliqués, on en a vu plein dans la saison, mais si le point final, c'est cette œuvre d'art qu'on a vue hier avec deux entraîneurs très modernes dans leur approche. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, mais ce sont les deux entraîneurs et leur façon de voir le foot qui ont permis un tel match et qui ont permis un tel spectacle. Si c'est ça la nouvelle tendance du foot, moi je suis OK, hein, ça me va.
On prend Jean-Louis Tour, merci beaucoup, qui était au commentaire hier soir et qui est ce matin à 7h10 pour vous en direct sur RMC. On vous laisse Jean-Louis parce que y en a des soirées spéciales, hein, sur RMC, deuxième demi-finale de la Ligue des Champions. Ça c'est ce soir, 21h, l'intégralité du match Atlético de Madrid-Arsenal, suivi de l'after-foot, des nuits du Casar enchaînées jusqu'à 1h30. Avant cela, on sera avec Daniel Riolo juste après le journal de 8h tout à l'heure. Merci Jean-Louis, il est 7h13. Les aliments ultra transformés en France, c'est 60% de nos produits alimentaires emballés. Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch. Vous venez de lancer une pétition qui réclame un encadrement beaucoup plus strict du marketing autour de ces produits, de la pub notamment, ces produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Trop industriel, on va définir ultra transformé dans un instant, mais ce qu'il faut en interdire la publicité de ces produits, c'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h16 sur RMC et RMC Story. Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'ONG Foodwatch France et avec Yuka. On connaît l'application Yuka. Et France Asso Santé, vous lancez une pétition pour exiger que l'État encadre enfin la publicité, le marketing autour des aliments ultra transformés. Il faut interdire la pub pour ces produits, c'est votre parti pris. De quoi est-ce qu'on parle d'abord quand on parle d'un produit ultra transformé? Je m'étais noté trop gras, trop sucré, trop salé, mais ça va plus loin, c'est trop d'additifs.
Oui, c'est ça. En fait, c'est des produits qui ont été vraiment beaucoup transformés. Ça veut dire que c'est pas des produits que vous allez retrouver avec des ingrédients que vous allez retrouver dans votre cuisine, quoi. Donc, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup de matières, des épaississants, des conservateurs, des choses qui sont vraiment utilisées dans les processus industriels, mais aussi où vous allez manquer finalement de fibres parce que ça a été cassé. Enfin, voilà. Donc, ce qui est super important surtout, c'est de se dire que aujourd'hui, on est dans une situation où les consommateurs sont effectivement totalement surexposés sans le savoir et sans limite.
Comment justement je sais que je suis face à un produit ultra transformé?
Justement, en fait, ils sont exposés sans le savoir et sans limite. Ça veut dire que, un, il n'y a aucune possibilité pour les consommateurs de le savoir puisque ça n'est pas étiqueté. Et deuxièmement, sans limite, parce qu'il n'y a aucun encadrement sur la part que ça prend dans les rayons sur la publicité. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plus de 60% des produits emballés dans les rayons. Donc c'est plus de la moitié des produits emballés qu'on trouve. Donc c'est des plats transformés, c'est les nuggets, c'est des biscuits, c'est... Foodwatch avait mis une première liste le 7 avril sur le site foodwatch.fr. Vous pouvez trouver 10 exemples de produits aussi qui sont présentés comme relativement bons pour la santé.
Oui, parce que c'est ça, on va parler de la publicité, mais il y a aussi cette idée que dans le marketing, on va nous le vendre, on va nous mettre des mots vertueux, on va nous mettre des petites mascottes, des petits logos.
Oui,
des
puis, vous savez, toutes ces allégations, donc faites très attention à ces allégations, sans sucre ajouté, sans conservateur, enfin sans, ce qu'ils disent surtout pas, c'est ce qu'il y a dedans en revanche.
Ouais.
Donc voilà, donc la seule façon pour les consommateurs de s'en rendre un peu compte aujourd'hui, c'est sur le marqueur des additifs parce que ça, c'est dans la liste des ingrédients. Donc, retournez la liste des ingrédients. Si vous voyez plein de noms bizarres ou des E, etc., ça, c'est tous les additifs. Évitez les listes à rallonge.
C'est mauvais pour la santé, pardon.
Et justement, et en fait, aujourd'hui, il faut le rendre visible. Donc, ce qu'on demande, c'est un étiquetage qui est concomitant avec le Nutri-Score parce que le Nutri-Score, vous connaissez de la lettre A à E, ça donne la qualité nutritionnelle des produits. Donc, ça, il faut vraiment que ça devienne obligatoire à l'échelle européenne.
En plus, il faudra autre chose.
Voilà, et les scientifiques sont en train de travailler sur des options pour ça. Donc, c'est déjà en fait à disposition. Il faut maintenant une décision politique pour dire, eh bien oui, on va l'afficher, que le consommateur soit au moins informé. Et ensuite, il faut protéger les gens de cette surexposition. C'est pas normal parce qu'il y a une centaine d'études scientifiques. Il y a eu des publications dans la revue scientifique The Lancet en novembre qui a compilé tout ça et qui confirme clairement qu'il y a des risques pour la santé sur une grosse consommation de ces produits ultra transformés. Il y a des risques pour la santé, de maladies
cardiovasculaires, certains cancers
de maladies chroniques. Et donc toute cette malbouffe en fait a un coût humain et un coût économique absolument phénoménal. La responsabilité, elle porte encore une fois sur l'industrie agroalimentaire et ce qu'ils mettent dans les rayons, sur la grande distribution et le choix qu'ils laissent ou pas et la transparence ou pas pour les consommateurs et les autorités publiques. C'est pour ça que Emmanuel Macron a dit on va encadrer l'alimentation ultra transformée. On attend des mesures concrètes.
Et parmi les mesures que vous suggérez, il y a l'encadrement de la publicité, du marketing, d'un mot, l'interdire pour tout ce qui est autour des programmes pour mineurs.
Oui, en fait, on demande depuis des années l'interdiction du marketing, de la publicité, notamment qui cible les enfants, en effet, pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Il faut rajouter et ultra transformés pour enfin protéger les consommateurs et surtout arrêter de les exposer comme ça, impunément et sans aucune transparence.
Faut-il avoir le choix, voilà, et pouvoir faire un choix éclairé quand on est en rayon, justement.
C'est pour ça que ça va aussi avec les campagnes de Foodwatch et de ses alliés sur la question des prix. Et il faut aussi qu'il y ait 100 produits recommandés pour la santé à prix coûtant. Donc il faut que ce soit disponible, transparent et accessible. L'alimentation saine, choisie, durable, c'est un droit fondamental pour toutes et tous.
Merci Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Foodwatch et ses alliés, je les cite, Yuka et France Asso Santé, pour cet encadrement autour des produits ultra transformés. 60% de ce qu'on trouve en rayon hein, quand c'est emballé, en dehors des fruits et légumes bien entendu. Merci beaucoup.
Merci
Karine Jacquemart. Il est 7h21. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle ce matin ?
Eh bien, on parle des langues régionales, puisque figurez-vous qu'il y a une bataille encore sur les langues régionales et que le pouvoir en France n'a jamais aimé ça. Il y a deux siècles, à peine 10% des Français parlaient français.
Et puis Arnaud Demange pirate le face-à-face, c'est Sébastien Chenu du RN. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h22 sur RMC, RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Mathieu.
Hier, plusieurs établissements scolaires étaient bloqués en Corse. Une mobilisation lycéenne en faveur des écoles immersives qu'on appelle Scola Corsa, c'est-à-dire des écoles où il y a un enseignement en langue corse.
Ah oui, les élèves ont mis des poubelles pour barrer l'accès à l'établissement. Ils ont aussi déployé des banderoles où était inscrite cette phrase « Lingua faci populo ». Alors c'est du corse hein, en français, ça veut dire « la langue fait le peuple ». Alors tout ça vient d'une inquiétude sur l'avenir de ces établissements où une partie de l'enseignement est donc dispensée en Corse. D'après les manifestants, l'État ne serait pas prêt à payer les salaires des enseignants alors qu'apparemment il s'y était engagé auparavant. Bref, c'est un nouvel épisode de la guerre pour les langues régionales.
Une guerre en France, comment dire, c'est un combat très ancien.
Oui, puisqu'en fait, notre particularité en France, c'est qu'on a toujours été hyper intolérant avec les langues régionales. Ça a commencé très tôt. À l'origine, le français, on appelait ça le françois, et ça faisait référence à une langue qu'on parlait surtout dans une région. Cette région, c'est la Touraine. Pourquoi la Touraine ? Eh bien parce que les rois passaient la plupart de leur temps dans cette région où ils chassaient, hein, là-bas. Et la règle, c'était que le bon français, c'était en fait celui que le roi parlait, avec son accent, ses mots, sa prononciation, et donc le but c'était de l'imiter. Vous voyez, le mépris pour les patois, ça date pas d'hier.
Alors, j'imagine que certains de nos rois ne venaient pas de Paris et parlaient eux-mêmes une forme de patois.
Alors, en fait, c'était assez rare, mais il y en a un, oui, particulièrement. Et ce roi, c'est Henri IV, hein, qui régnait à la fin du XVIe siècle. Il était originaire de la ville de Pau, donc très loin de la capitale. Et quand il devient roi, il débarque à Paris avec son accent du sud-ouest à couper au couteau. Et alors, autant vous dire que ça a choqué absolument tout le monde. Il parlait avec des expressions gasconnes que personne ne comprenait. D'ailleurs, il les mettait aussi à l'écrit, ces expressions. Mais bon, comme c'était le roi, tout le monde a fini par s'y faire. Et même, figurez-vous, à l'imiter.
Mais en France, majoritairement, on parlait quelle langue ?
Alors, une statistique très parlante et un peu étonnante. En 1789, donc c'est l'année de la Révolution française, sur 28 millions d'habitants en France, il n'y avait que 3 millions de Français qui parlaient le français. Donc à peine 10%, hein, c'était seulement il y a deux siècles. Les autres parlaient en fait un dialecte local. Le français, si vous voulez, c'était la langue des riches qu'on parlait dans les villes. Et un des buts de la Révolution française, ça va justement être d'imposer le français sur tout le territoire, y compris dans les campagnes. Alors vous me direz, pourquoi faire ? Eh bien parce qu'on voulait centraliser le pouvoir politique autour de Paris. Et donc ça passait par la langue de Paris, le français.
Et comment on va faire ?
Eh bien, on va employer la méthode forte à la française. Hein. En 1794, donc juste après la Révolution, on fait passer un décret pour, je cite, « anéantir tous les patois ». Donc c'était clair.
Anéantir.
Anéantir. Anéantir. Et on impose la rédaction en français de tous les actes officiels. Donc si vous ne compreniez pas, tant pis pour vous. Et ça va fonctionner, mais lentement. En 1900, 25% des Français parlaient encore une langue régionale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%.
Merci beaucoup Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin qu'on réécoute en chronique, en podcast sur l'application RMC. Il est 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud Demange.
Et bonjour Mathieu Bélier.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Sébastien Chenu, vice-président du RN, vice-président de l'Assemblée Nationale.
Et oui. Non, mais on a failli l'annuler et le remplacer par Daniel Riolo parce que le PSG a battu le Bayern de Munich 5-4 dans un match génial que j'ai pas vu, je dormais. Et puis, on s'est dit, bon, une bagarre franco-allemande, ça peut lui plaire à Chenu. Alors sinon, Emmanuel Macron a qualifié de maboule les gens qui veulent se fâcher avec l'Algérie, car un tiers des 19 000 médecins en France ont obtenu leur diplôme en Algérie. Et déjà,
qu'on les envoie vivre à Charleville-Mézières, on va pas leur donner des raisons en plus d'être fâchés avec nous, hein. C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour vivre là-bas. C'est des docteurs maboule.
Je suis fou.
Et Marine Le Pen a critiqué la trumpisation d'Emmanuel Macron. Alors on en est loin quand même, hein. D'ici à ce que Macron nous propose de boire de l'eau de Javel et jouer au golf 3 fois par semaine et aime les jeunes filles et attaque des pays étrangers et muselle les médias et truque les marchés et soutienne Marine Le Pen comme l'original, eh ben on a un peu de temps. Alors Sébastien Chenu réagira aussi au rapport du député bolloriste Charles Alloncle. Vous savez qu'il aime la culture, Chenu. Il a commencé en politique comme vice-président de la communauté d'agglomération chargée du tourisme à Beauvais. Et oui, fallait y croire, le tourisme à Beauvais. Non mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y avait une dualité intérieure. Le responsable du tourisme veut faire venir des étrangers. Le futur vice-président du RN préférerait qu'ils partent. Ce qui explique l'un dans l'autre que le tourisme à Beauvais est pas explosé sous Sébastien Chenu. Donc la culture, c'est son dada. Et dans le rapport à l'oncle, on apprend des trucs passionnants. France 4 marche pas. Waouh, France Inter est de gauche. Oh mon Dieu, il pleut des scoops. Le festival de Cannes, c'est cher pour le couvrir. Je ne sais pas si on gâche des sous dans l'audiovisuel public, mais en tout cas, ce rapport, c'est de l'argent de l'État bien employé. Et alors, autre sujet, la présidentielle. Vous avez vu, Hélène Mercier-Arnaud, c'est la femme de Bernard Arnault. Elle a déclaré qu'en 2027, entre Bardella et Mélenchon, elle choisirait Mélenchon. C'est vexant pour le RN. Et d'un côté, t'as les insoumis qui veulent te taxer tout ton argent et te mettre en camp de redressement. Et de l'autre, le RN qui est là, bonjour madame, s'il vous plaît. Tu choisis quand même les insoumis. Ceci dit, je la comprends, hein. Elle est violoniste et femme de l'homme le plus riche de France. D'un côté, t'as le RN qui veut sabrer les crédits de la culture. De l'autre, les insoumis qui veulent couper la tête de ton époux. Un héritage de cette taille-là, c'est dur de dire non. Donc je la comprends. Rendez-vous avec Chenu à 8h30.
Il est 7h28. Merci Arnaud Demanche. Sébastien Chenu à 8h30. On revient dans un instant pour la météo et le journal. Il est 7h30. Encore chaud aujourd'hui ?
Oui, de la douceur et de la chaleur, notamment dans le sud-ouest. Ce sera en Poitou-Charentes. Partout ailleurs, il y aura du soleil, mais surtout ces orages dans l'ouest du pays. Ils sont déjà bien présents en Bretagne ce matin. De la douceur et de la chaleur, on l'a annoncé cet après-midi. Il fera 23 degrés à Rennes, 25 à Montélimar, 26 à Cognac et jusqu'à 28 degrés près de Poitiers.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
7h31.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un nouveau nom, mais les mêmes dérives. Enquête ouverte après la réapparition du site Coco. RMC a fait le test des prédateurs sexuels. Ils discutent toujours dans le plus pur anonymat. Une réunion qui termine très mal au BHV des représentants syndicaux évacués du grand magasin parisien, menottés par la police. Et puis le PSG se déplacera avec un but d'avance à Munich la semaine prochaine. Victoire 5-4 des Parisiens en demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Le parquet de Paris enquête donc sur la réapparition d'un site bien connu des autorités.
Le site Coco, qui s'appelle désormais Cocoland, un chat connu notamment pour héberger de nombreux prédateurs et pour avoir facilité des guet-apens homophobes et des viols. Coco apparaissait dans 23 000 affaires pénales, notamment celle de Mazan. C'est sur ce site que Dominique Pellicot a recruté les dizaines d'hommes venus violer sa femme. Site fermé par la justice il y a près d'un an et qui est donc de retour. Julie Bro, vous avez enquêté pour RMC, rien n'a changé. Et le constat est terrifiant.
Oui, en quelques clics sur Cocoland, je crée le faux profil de Lola, 13 ans, sans faire face à aucune restriction d'âge. 30 secondes plus tard, je reçois deux messages d'hommes âgés de plus de 40 ans qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nu. En 10 minutes, ce sont plus de 15 hommes qui me contactent, tous adultes, tous informés de mon âge et qui m'envoient pourtant des photos de leur sexe en érection ou bien des propositions d'actes sexuels. Un mécanisme effrayant, dénonce Solène Potvin-Fabre, présidente de l'association Face à l'inceste.
Ce qui se joue en ligne se rejoue souvent hors ligne. On le sait, les personnes qui passent à l'acte ont pour la plupart consommé des images, sont rentrées en relation avec des mineurs via les réseaux sociaux. Chaque jour qui passe avec ce site ouvert, c'est un jour de danger pour des enfants.
L'association qui a lancé une pétition pour la fermeture de cette plateforme s'inquiète désormais des délais, car il avait fallu plus d'un mois et demi aux autorités pour fermer la précédente version du site en 2024 et qui était hébergée sous des faux noms et camouflée dans différents pays à travers le monde.
Enquête signée Julie Brault du service police-justice d'RMC.
Et juste après ce journal, on sera avec la haute commissaire à l'enfance. C'est plus possible que ces sites continuent de prospérer sur le net. Sarah El Haïry, ses réponses juste après le journal, dans un instant.
Le BHV n'en finit plus de faire parler de lui, le grand magasin parisien, au cœur d'une nouvelle polémique après l'arrivée de Chine dans ses rayons. Hier, une réunion a dégénéré. Deux représentants syndicaux évacués par la police. Philippine Boulet, ils ont même été menottés.
Tout part d'une banale réunion consacrée aux futures élections syndicales. Deux syndicalistes qui ne font pas partie de l'entreprise souhaitent y participer. L'un du syndicat du commerce et services indépendants démocratiques, l'autre du syndicat des Gilets jaunes. Mais dès leur arrivée, la direction du BHV leur demande de partir. Eux assurent que la loi les autorise à assister à cette réunion. Le ton monte. La direction parle de propos virulents, racistes, ce que démentent les deux représentants. Ils sont finalement embarqués par les forces de l'ordre. L'un d'eux est même menacé. Noté, ils seront relâchés sans poursuite. Dans un communiqué, l'intersyndicale du BHV dénonce une exclusion illégale. La direction, elle, condamne fermement ces intrusions.
Le projet de loi sur le travail, le 1er mai, arrive en Conseil des ministres ce matin.
Pour encadrer dès l'année prochaine le travail des boulangers et des fleuristes en ce jour traditionnellement chômé, le gouvernement a dû retravailler son texte après une forte opposition des syndicats et de la gauche. Version un peu plus restrictive, Cyprien Pézril.
Les boulangers, pâtissiers, les fleuristes, voici donc les seules et uniques professions que le projet de loi autorise à travailler le 1er mai, à condition, exigence de Sébastien Lecornu, que ce soit des artisans, que les salariés aient fait savoir par écrit qu'ils sont volontaires et qu'ils soient au moins payés double, des restrictions. Pas question donc que tous les commerces puissent ouvrir. Aux grandes dames des représentants du patronat qui l'ont fait savoir au gouvernement, les bouchers, les poissonniers notamment, mais même très encadrés, ça ne rend pas le projet de loi acceptable aux yeux des syndicats, partisans du repos les jours fériés. Ces positions seront forcément reprise lors de l'examen au Parlement, ce qui laisse présager encore des débats tendus. Le texte s'appliquera au plus tôt le 1er mai 2027. Quant à cette année, officiellement, les boulangers et les fleuristes qui font travailler leurs salariés pourront toujours être sanctionnés vendredi, même si le gouvernement appelle les inspecteurs à la clémence.
Les États-Unis ont, je cite, vaincu militairement l'Iran. C'est ce que dit Donald Trump en présence du roi britannique Charles III, alors qu'aujourd'hui son ministre de la Défense, Pete Hegseth, doit s'expliquer devant les députés américains sur l'enlisement de cette guerre.
Et puis c'était peut-être le plus beau match de l'année. Le PSG est venu à bout du Bayern hier soir.
Au terme d'une rencontre folle, 9 buts inscrits au total, victoire 5-4 des Parisiens, eux qui menaient 5-2. Ils se déplaceront donc la semaine prochaine avec un petit but d'avance, ce que regrette Vitinha, milieu de terrain parisien.
C'est vrai qu'on a eu un avantage plus important, mais c'est Bayern en face. Donc eux, ils disent aussi qu'ils avaient un bout d'écart au début. Nous, on a repris, après c'est eux. Le plus important, c'est qu'on a gagné, on a un bout d'écart. C'est important aussi de dire que ça signifie absolument rien, parce que ça va être un grand match là-bas aussi, et tout peut changer dans une minute.
Match retour de cette demi-finale mercredi prochain. Et ce soir, ne manquez pas l'autre demi-finale, Atlético-Arsenal. La dernière demi de Ligue des Champions d'Antoine Griezmann. Match à vivre sur RMC à partir de 21h. Les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan-Cortina seront décorés en fin de matinée à l'Elysée. 23 médailles au total, c'est un record pour les Jeux d'hiver. L'occasion aussi, selon la présidence de la République, de se projeter vers les Alpes 2030 qui s'organisent avec quelques difficultés. Le tournoi masculin de hockey sur glace devait se tenir à Nice, mais le nouveau maire Eric Ciotti s'y oppose. Diane Carlotti, cela pourrait finalement se tenir à Lyon ou à Paris.
On le sait depuis quelques semaines, la ville de Lyon est candidate pour accueillir le tournoi de hockey sur glace masculin, l'une des disciplines phares des Jeux d'hiver. Et hier, le maire Grégory Doucet a confirmé l'intérêt de sa commune en postant sur ses réseaux sociaux une vidéo où il se met en scène, patin au pied, pour vanter les atouts olympiques de sa ville, parmi lesquels la LDLC Arena, qui accueillera déjà une partie des championnats du monde de hockey en 2028. Des championnats du monde qui se dérouleront également à l'Accor Arena de Paris. La capitale est d'ailleurs la deuxième ville candidate pour accueillir le hockey masculin lors des Jeux olympiques d'hiver. Deux salles ont déjà été identifiées, l'Accor Arena donc et l'Adidas Arena. Pour le moment, aucune décision n'a été officiellement actée. Le comité olympique et paralympique doit annoncer la carte complète des sites pour Alpes 2030 aux alentours du 22 juin.
Et puis le quintet, c'est à Laval, départ 13h55.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 4, Gérénal d'Ameline. L'outsider, c'est le numéro 3, Key of Love, le 4 et le 3.
Merci beaucoup Clara Gabillet. On a entendu Vitinha du Paris Saint-Germain dans votre journal. On va écouter Ali des Bouches-du-Rhône au 32-16 ce matin. Bonjour Ali.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Ce matin, j'ai posé cette question, est-ce qu'il n'y a que les supporters parisiens qui ont vibré hier soir? Je crois que la réponse est non.
La,
On était avec un Toulousain fan de rugby tout à l'heure. Et vous, Ali, vous êtes supporter de l'OM?
Ah oui, moi je suis supporter de l'OM. Vous savez quand même que c'est très compliqué. C'est très difficile de dire à un Marseillais d'aimer le Paris Saint-Germain. C'est très compliqué. Mais vous savez, quand on voit un football comme ça, on peut que féliciter les Parisiens. Parce qu'hier, ils nous ont fourni un spectacle formidable. Je pense quand même que tous les abonnés de Canal hier soir, ils en ont eu pour leur argent. Contrairement au championnat, ce que nous fournissent chaque samedi dimanche, je pense quand même qu'hier, le Paris Saint-Germain, ils ont montré un football fantastique et que ça restera dans les annales du football.
Merci Ali. Je pense aussi que ceux qui ont vu ce match, ceux qui y étaient encore plus, mais ceux qui ont vu ce match s'en rappelleront. Je ne sais pas si on a déjà vu beaucoup de matchs de cet ordre-là. En tout cas, merci Ali, supporter de l'Olympique de Marseille qui salue le jeu d'hier soir. C'est quand même à souligner. Merci d'avoir composé le 32-16 ce matin. Vous continuez à réagir comme vous le faites nombreux au 32-16 sur le WhatsApp RMC aussi au 06 12 424 424. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le site Coco est de retour, fermé par la justice en 2024. Il réapparaît sous un nouveau nom, une nouvelle adresse, Coco Land. Toujours aucun contrôle, ni aucune vérification d'âge. Comment ce site, aux 23 000 affaires pénales, a-t-il pu renaître? Le site qui a servi à Dominique Pellicot pour recruter des violeurs, un repère de pédocriminels. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, est notre invitée dans un instant. C'est sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h43, bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC. Je vous souhaite un bon réveil, même si cette actu risque de vous rebuter. Le site Coco est de retour. Fermé en juin 2024, il ressurgit sous un nouveau nom, Cocoland. Petit rappel, 23 000 affaires pénales pour le site Coco. Il y a des agressions sexuelles sur mineurs, des viols, des trafics de stupes, des violences homophobes. C'est sur cette plateforme que Dominique Pellicot recrutait les violeurs de sa femme. Un site qui promet des rencontres amoureuses sans filtre, des salons de discussion en ligne. C'est surtout un saloon numérique poisseux. Bonjour Sarah El Haïry.
Bonjour.
Vous êtes haute commissaire à l'enfance. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à l'unité cyber de la gendarmerie. Ça fait 2 semaines que des alertes sont émises sur le retour de cette plateforme. En combien de temps est-ce qu'on peut espérer sa fermeture?
Écoutez, en quelques jours, les enquêtes ont été lancées et le parquet de Paris s'est saisi. C'est important. Mais faut pas être naïf. Hein. Le retour de Coco, il a pas été découvert par hasard. Il a été identifié, il a été documenté, il a été analysé. On est en veille active. Mais à chaque fois, faut arrêter de parler de dérive numérique. À chaque fois qu'il y aura des espaces comme ça, qui vont renaître, alors qu'on les a fermés, qui ont les mêmes infrastructures, qui ont en réalité les mêmes objectifs, les mêmes usages, c'est les mêmes interfaces. Alors il y a des angles morts.
Et combien de temps va mettre à le fermer, Sarah El Haïry?
C'est la justice qui tranchera. Aujourd'hui, la justice est en cours, l'enquête est en cours, et c'est à la justice de poser le délai. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ça prendra X jours, X semaines.
Parce que la réalité, c'est que pendant ce temps, évidemment, il reste actif. Notre journaliste, vous l'avez peut-être entendu, c'était dans le journal de 7h30 de Clara Gabi, et notre journaliste du service police-justice, Julie Brault, a fait une expérience hier. En quelques clics sur Cocoland, elle a créé le faux profil de Lola, 13 ans, et son récit. 30 secondes plus tard, je reçois 2 messages d'hommes âgés de plus de 40 ans qui me demandent de leur envoyer des photos de moi nu. Plus de 15 hommes en 10 minutes. 15 hommes en 10 minutes, tous adultes, tous informés de l'âge de 13 ans, qui envoient des photos de leur sexe en érection ou des propositions d'actes sexuels. En fait, au moment où on est en train de se parler, Sarah El Haïry, il y a des mineurs qui sont approchés par des pédocriminels.
Bien sûr, mais vous savez, moi, c'est tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je lutte contre ces plateformes et on essaye de protéger les enfants dans la rue et en ligne. Tous les jours, on a fait plus de... franchement... une dizaine de signalements. On a encore 2 signalements qui sont en cours sur legarçon.net et chat. On a une troisième.
C'est quoi ces sites, legarçon.net et chat?
C'est également des sites qui aujourd'hui donnent finalement mettent en contact des pédocriminels parce qu'il n'y a pas de vérification d'âge, parce qu'il y a des messages à caractère sexuel et qui sont transmis aux utilisateurs, parce que le contrôle d'âge est pas robuste, parce que les enfants et des mineurs sont accostés par des prédateurs. C'est là où il faut mettre fin à ces zones grises. C'est pas
donc on fait quoi sur legarçonnet.fr?
Eh ben j'ai engagé comme pour Cocoland une saisine du procureur de la République, une plateforme et une saisine Pharos et une saisine Arcom. Quand je vous dis qu'on les traque et que pour le coup on ne les lâche pas, à chaque fois on engage l'ensemble des procédures possibles pour que ils fassent la fermeture du site et qu'ils engagent la responsabilité. Moi, je veux qu'on arrête exclusivement de se dire « bon, bah le site s'est arrêté, ouf ». La réalité, c'est pas ça. C'est qu'il faut engager la responsabilité de tout le monde, comme on l'avait fait, comme je l'avais fait avec les poupées pédocriminelles. Il faut aller chercher les hommes qui, aujourd'hui, envoient ces images. Il faut aller engager la responsabilité de l'hébergeur et de l'éditeur, celui qui accepte qu'il n'y ait aucun contrôle d'âge, alors qu'il sait que sur son site, il vend en réalité. Hein, faut pas
il y a d'autres sites qui sont dans votre viseur, Sarah Alaïri.
Bah, Chatoui, qui est en cours aussi, parce que, pareil, il n'y a pas de contrôle d'âge, parce qu'il y a des prédateurs, et la justice est saisie à chaque fois. Je vais être très clair. La logique, aujourd'hui, il faut imposer, dès la conception de ces plateformes, des mécanismes de détention qui permettent d'alerter et qui empêchent, finalement, ces zones grises.
Des la mécanismes de détention, ça veut dire quoi, Sarah Alaïri?
Aujourd'hui, les mécanismes de détection, c'est la manière dont on va tout de suite reconnaître, une image. Il ne faut pas d'échappatoire. Aujourd'hui, tant que la responsabilité, elle est fragmentée, elle restera très inefficace. Et c'est le problème. Et pendant ce temps-là, il y a des victimes, il y a des jeunes filles, il y a aujourd'hui même des jeunes garçons. C'est garçon.net, c'est ça, hein?
Oui, je note, le garçon.net et chat.fr pour lesquels il y a des procédures engagées que vous avez en tout cas saisies, Arcom et Pharos, et un autre site Chatoui où ça se constitue. Je reviens sur le retour de la plateforme Coco sous la forme Cocoland. Vous avez menacé Sarah Alaïri, on peut pas vous l'enlever, des procédures, je vous cite, des procédures lancées qui permettront de les faire fermer, on les traquera, on les harcèlera, on leur laissera pas de répit. Ça, c'est votre promesse. Mais en fait, quand on vous entend et on vous entend répéter, malgré une forme de sincérité, Sarah Alaïri, je me dis que moi, par exemple, je suis parent d'ado, ils seront majeurs avant qu'on ait changé les règlements.
Non mais attendez, on va être très clair. On a réussi à fermer plusieurs sites. Mais à chaque fois qu'on en ferme un, vous pensez qu'il se passe quoi? Il y en a 10 qui se créent. Qui est le responsable? Le responsable, c'est le pédocriminel qui est sur cette plateforme et qui essaye d'abuser de nos enfants. Le deuxième responsable, c'est la plateforme qui accepte d'héberger ces horreurs. Le quatrième responsable, c'est celui qui est l'esprit suffisamment tordu pour avoir créé un site comme ça. C'est toute la chaîne qu'il faut aller faire tomber.
Il manque pas un responsable, Sarah Alaïri, et l'hébergeur du site internet, qui aujourd'hui est pénalement très très peu responsabilisé.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas de fragmentation des responsabilités. Franchement, si c'était dans la rue, si c'était dans la vie réelle, dans la vie, je saurais faire tomber toute la chaîne. Toute la chaîne. Aujourd'hui, dans le web, c'est plus dur. Ils se cachent dans d'autres pays. Ils utilisent même des entreprises pour rendre anonyme soit le détenteur du nom, domaine, soit celui qui bénéficie de l'argent, parce que tout ce trafic sur ces sites génère de l'argent. Ils abusent.
Évidemment que ça génère de l'argent. Évidemment qu'il y a un business.
Et ça génère de l'argent.
Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ce serait dans la rue avec des commerces, des
je saurais les fermer.
Les locatifs, on saurait le fermer. Là, c'est plus compliqué. CNN parlait en mars. D'Académie mondiale du viol, ça c'est CNN, les Américains, parce que ces sites comme Cocoland permettent d'organiser des viols, mais en fait CNN remontait tout un tas de sites avec des hommes qui s'échangent des conseils pour droguer, pour violer. Académie mondiale du viol, ça donne, Sarah Alaïri, le sentiment qu'on est tous un peu dépassés. Restez en ligne avec nous, il y a Simon qui nous appelle du Rhône ce matin, qui est chef d'entreprise. Bonjour Simon.
Bonjour à toute l'équipe. Bonjour madame, je tenais à intervenir parce que c'est révoltant, je suis désolé, mais votre discours, il est terrible pour les victimes et les gens qui vous écoutent. Je suis navré, mais extrêmement passive, alors qu'aujourd'hui, on peut parfaitement passer au-delà de la loi. Prenez des cybercriminels, allez attaquer ces gens-là, montez une équipe spéciale, bougez-vous, quoi. En fait, en 48 heures, on peut strike un site. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs informatiques qui sont des génies pour aller exploser des sites comme ça. Employez-les, bougez-vous, dégommez-les, exposez ces cybercriminels et ces gens, ces pédocriminels terribles, exposez-les, mettez-les en ligne, vous inquiétez pas, les gens vont faire leur travail, vous inquiétez pas, et puis la justice fera son travail derrière, mais alors, d'abord exposez-les.
C'est à la justice de faire son travail, mais Sarah Alaïri, vous avez dit effectivement sur la fermeture de ce site-là, c'est la justice qui fera son travail. Est-ce qu'aujourd'hui on se donne les moyens? J'entendais Simon parler d'intervention quasiment de hacker en fait, pourquoi effectivement on pourrait... Vous avez utilisé le verbe striker, Simon, c'est-à-dire faire tomber le site internet, comme on fait tomber des sites internet publics quand il s'agit de hacking.
Monsieur, on utilise les règles de la loi pour les poursuivre, pour que ces hommes se retrouvent aussi en prison. C'est ça que j'ai fait avec les poupées pédocriminelles. Les hommes qui ont touché les enfants, les hommes qui sont peut-être vos voisins, leur place, elle est en prison, ils sont dangereux. Donc moi, c'est pas que le site qui m'intéresse. C'est les hommes qui traquent nos enfants. Donc vous comprenez,
récupérer moi, les infos.
Mais c'est ce qu'on fait en fait. C'est ce qu'on fait avec les équipes, pour le coup cyber de la gendarmerie. C'est ce qu'on fait avec l'OFMIN. C'est ce qu'on fait également avec des associations qui s'appellent des signaleurs de confiance. Et je comprends votre colère. Moi aussi, ça me met en colère. Mais vous pouvez pas dire que c'est inutile. C'est pas vrai. Parce que des sites, on en ferme. Et moi, mon sujet, c'est aujourd'hui la chaîne de responsabilité de tout le monde. On va pas s'amuser à chercher au chat et à la souris le site qui s'ouvre, celui qui se ferme, le nouveau nom. La réalité, c'est que sur l'enquête de CNN, Motherless, ça marque quoi? Ça marque la soumission chimique. Des hommes qui décident, parce qu'ils utilisent des médicaments, parce qu'ils utilisent...
Le modèle
malheureusement,
Bellico,
des guet-apens, d'endormir, exactement, d'endormir pour le coup leurs femmes. Mmh. Et cette soumission chimique, on la retrouve aussi sur des enfants. Aussi
merci
sur
Sarah
des enfants.
Larry. Merci
donc,
beaucoup.
Soyons très clairs, un signalement, toujours signaler quand on voit des horreurs. Et pour le coup, on va être très clair, dire à ceux qui échangent ces images et ces photos, oui, on les retrouvera, et oui, ils seront, on engagera des responsabilités pénales contre ces personnes.
On suivra évidemment ce dossier, Sarah Larry. Haute commissaire à l'enfance, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je remercie aussi Simon qui portait une forme de colère que beaucoup doivent partager derrière le poste aussi. L'engagement à la fois de l'État et de nous, citoyens aussi, vis-à-vis de la pédocriminalité en ligne notamment. Merci Sarah Alayri, il est 7h52. Dans un instant, la voix de droite d'RMC, c'est Charles Consigny avec la métropole Aix-Marseille qui n'a pas de budget 2026. Elle est sur la paille et risque une mise sous tutelle. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous nous dites en gros qu'il faut bien regarder ce qui se passe là-bas parce que ça nous attend ailleurs.
Je pense que la mise sous tutelle de Marseille par l'État préfigure la mise sous tutelle de l'État par la Banque Centrale Européenne ou le Fonds Monétaire International.
A tout de suite sur RMC et RMC Story, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du bonus. Élise, est-ce que Lady Gaga s'habille en Prada?
Eh ben, ce qui est certain, c'est que ce sont ses chansons qui vont en partie habiller le deuxième opus du Diable s'habille en Prada qui sort aujourd'hui en salle 20 ans après le premier volet qui avait rencontré un succès planétaire. Meryl Streep et Anne Hathaway sur du Gaga, ça promet. Et pour l'occasion, la chanteuse a sorti le clip de son titre Runway qui porte le nom du magazine de mode iconique du film. Un titre hyper dansant en duo avec la rappeuse Doshi avec laquelle elle répète qu'elle est née pour le runway, autrement dit pour les podiums. Et c'est bien simple, ce clip, c'est un défilé de mode géant avec des tas de références au milieu. L'une des tenues de Gaga est d'ailleurs signée John Galliano. Les références à la mode sont partout et c'est, je l'ai dit, iconique.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h55 sur RMC et RMC Story. Notre voix de droite ce matin, c'est Charles Consigny. Bonjour Charles.
Bonjour.
La métropole Aix-Marseille n'a plus un copec. Il manque 123 millions d'euros dans les caisses pour présenter un budget à l'équilibre. C'est inédit pour une collectivité de cette taille. La métropole risque la mise sous tutelle de l'État. Charles, pour vous, ce qui arrive à Aix-Marseille, ça va arriver aussi à la France?
En tout cas, je trouve que c'est très intéressant de voir que les finances publiques dans notre pays sont aussi mal tenues au niveau national qu'au niveau local. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de constater pourquoi la métropole d'Aix-Marseille se trouve dans cette situation. De leur aveu même, c'est dû notamment à la gratuité des transports qui a été mise en place pendant la mandature précédente, qui a gravement creusé le déficit de cette métropole, ce qui ne surprendra personne, puisque en matière de services publics, rien n'est vraiment gratuit.
Laisse enlever ce chaton.
Rien n'est vraiment gratuit.
La gratuité, ça se paye à un moment.
Il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Donc là, en l'occurrence, ce sera le contribuable. Évidemment, cela dit, le transport est déjà largement gratuit dans beaucoup de villes où les gens ne payent tout simplement pas leur transport, même quand il est payant. Ça, c'est un autre problème. Mais ça fait que, à la fin, vous payez l'addition. Et aujourd'hui, l'addition est très lourde pour cette métropole.
Ce que vous dites, en fait, c'est que les finances publiques vont mal partout, que ce soit au niveau local ou au niveau national. L'État dépense trop d'argent.
Alors, l'État dépense trop d'argent. Autre sujet qui me paraît intéressant, en l'occurrence, c'est que vous avez trop peu de gens qui payent l'impôt, en réalité, à Aix-Marseille. Vous avez 50% à peu près de la population qui est imposable à l'impôt sur le revenu. Donc c'est trop faible. Il peut pas y avoir seulement la moitié des gens qui payent des impôts et en plus offrir des services publics gratuits. Il faut, à mon avis, choisir entre les deux. Premier élément. Et deuxième élément, moi je pense effectivement que il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est l'échelon métropole, parce que je me suis documenté sur le sujet. En réalité, l'échelon métropole créé par François Hollande, qui est une nouvelle couche administrative, on dit tout le temps qu'on veut réduire les couches administratives, etc. Là, Hollande en a créé une nouvelle qui englobe donc Aix, Marseille, mais aussi quelques communes de ce coin-là. En réalité, complique les choses parce que mutualise des moyens et doit arbitrer entre des besoins très différents selon les villes. Par exemple, Marseille a un problème de transport, ils doivent augmenter leur offre de transport public. À leur place, je ne le ferai pas gratuit d'ailleurs, mais il y a un problème de transport collectif. Ce n'est pas forcément le cas des villes autour. Et donc, la métropole se retrouve à devoir investir dans des infrastructures très coûteuses au détriment d'autres villes, etc. Donc moi, je fais aussi une proposition simple qui est de supprimer cette connerie qui est l'échelon de la métropole. Je veux dire, Marseille est une ville suffisamment grande, Aix est une ville suffisamment grande. Pour s'administrer elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de la métropole.
Et pour vous, la mise sous tutelle de certaines collectivités, elle pourrait préfigurer celle de l'État français par la Banque Centrale Européenne ou le FMI?
Alors, si on élargit effectivement un peu le spectre, effectivement, à l'échelon national, nous avons les mêmes problèmes qu'à l'échelon local. Et ce que disent, malheureusement, sous le manteau, mais de moins en moins sous le manteau, de moins en moins en chuchotant, nos élites économiques, vous interrogez aujourd'hui n'importe quel grand patron, n'importe quel ancien grand ministre ou même ministre en exercice, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils attendent tranquillement que la France se retrouve à la limite du défaut de paiement, pour que la Banque Centrale Européenne, avant le FMI, nous impose des règles extrêmement strictes, comme ça a été le cas par exemple en Grèce, et qu'on fasse à ce moment-là les réformes qui s'imposent. Mais on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore, Charles Consigny.
On n'est pas loin.
Merci beaucoup. La voix de droite ce matin sur RMC. Demain matin, la voix de gauche, c'est Cécile Duflot. Dans un instant, vous restez avec nous. La météo, bien sûr. Le journal aussi. Le PSG vainqueur du Bayern au terme d'un match historique en demi-finale aller de Ligue des Champions. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Un excellent réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, il est 8h01.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une question ce matin, où est Manon? Voilà un mois qu'une agricultrice de la région nantaise a disparu. Son compagnon vient d'être arrêté en Algérie et sa mère témoigne, vous allez l'entendre ce matin sur RMC. Les géants du pétrole profitent-ils de la crise au Moyen-Orient? Ils annoncent leurs résultats pour le début d'année avec sans surprise des bénéfices XXL. Et a-t-on assisté au plus grand match de foot de tous les temps hier soir? Vous allez voir que la presse européenne se le demande au lendemain de la victoire du PSG 5-4 contre le Bayern dans une demi-finale de Ligue des Champions qui va rester dans les mêmes.
Et on va commencer par ce témoignage bouleversant ce matin sur RMC.
Oui, vous allez entendre la mère donc de Manon Rolando, cette agricultrice de 31 ans installée dans la région nantaise qui ne donne plus aucun signe de vie depuis un mois. Ses proches ont alerté les autorités début avril et la veille, c'est ce qui est troublant, son compagnon de 41 ans s'était envolé pour l'Algérie avec leur petite fille de 15 mois. Le compagnon a été arrêté en début de semaine en compagnie de la fillette, mais donc pas de Manon. D'où ce témoignage et même cet appel lancé par sa maman ce matin sur RMC.
Maintenant, j'espère que Karim va dire la vérité, va dire ce qui s'est passé, va répondre à toutes mes questions. Hein, parce que l'âme de ma petite, je ne sais pas si elle est au ciel, je ne sais pas si elle est en détresse, j'en peux plus. Donc peut-être que Manon m'entend. Hein, ma chérie, garde ta force, tu sais, on t'aime. Et puis on t'aidera à remonter ça. Hein. Moi, j'en peux plus, mais je garde ma force. Et puis je la garde pour Manon, pour Inaya. Et puis que justice soit faite.
Témoignage recueilli par notre correspondant dans le nord-ouest de la France, Martin Lange, donc au micro d'RMC. C'est lundi que le compagnon de Manon a été arrêté en Algérie. On ne sait pas encore s'il sera extradé vers la France, mais il est le suspect numéro un dans cette affaire dans laquelle il clame son innocence. Vous allez l'entendre, sa voix a été modifiée et donc c'est troublant. Hein, Maxime Clier-Ruza du service police-justice à RMC. Il a pris la parole dimanche, la veille de son interpellation, dans un live diffusé sur les réseaux sociaux.
Pendant près d'une heure, il alterne entre affirmations et incohérences au sujet de sa compagne, mais tout en répondant aux questions des internautes, il l'affirme, Manon Rolando est toujours en vie.
Elle voulait disparaître. Je peux pas l'empêcher, non?
Et précise pourquoi il ne rentre pas en France avec sa fille.
Je suis pas sûr que je rentrerai avec ma fille, peut-être. Parce que je sais que je vais être placé en garde à vue, passer des petits vacances en prison.
Mais selon nos informations, plusieurs éléments permettent d'écarter la piste de la disparition volontaire, à commencer par la fuite du suspect vers l'Algérie, la veille du signalement de la disparition. disparition de sa compagne, Manon Rolando, qui avait rendez-vous avec une association d'aide aux victimes de violences conjugales alors que les disputes entre les deux amoureux devenaient fréquentes. Rendez-vous manqué par la mère de famille qui s'est volatilisée juste avant. Enfin, les enquêteurs s'interrogent dans des SMS. La trentenaire explique à ses proches pourquoi elle ne donne plus de nouvelles. Problème, la femme avait déjà disparu sans son téléphone. Son compagnon, lui, était encore à leur domicile.
Vous venez d'entendre sur RMC la haute commissaire à l'enfance Sarah El-Haïry qui appelle à ne pas être naïf au lendemain de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris sur la réouverture du site Coco sous une nouvelle appellation, mais plateforme qui est mise en cause dans des milliers d'affaires de viols, agressions sexuelles ou encore d'homophobie. Tiens, ça c'est un chiffre qui va assurément faire réagir ce matin. Le groupe Total doit annoncer là dans les toutes prochaines minutes ses résultats pour le premier trimestre de l'année. En plein conflit au Moyen-Orient, dans la foulée de ceux de son concurrent BP qui annonçait hier un bénéfice doublé par rapport à la même période l'année dernière, profitant en fait des prix du pétrole qui continue de grimper ce matin à plus de 111 dollars pour le baril de Brent. Voilà ce qu'on dit, comment l'explique en tout cas le spécialiste de l'énergie Jean-Pierre Favennec.
Quand le prix du brut est à 120 dollars au lieu de 60, évidemment les marges des compagnies pétrolières sont beaucoup plus élevées. Cette rente étant partagée entre l'État et la compagnie, mais la compagnie en garde une bonne partie pour elle. Donc ça fait des bénéfices très très considérables. Et on sait que Total a gagné environ 1 milliard de dollars en pariant sur l'augmentation du prix. Total a anticipé fin février, donc Total a acheté du pétrole à un moment où le prix était bas et a pu avoir le potentiel de le revendre quelques semaines plus tard, le prix du pétrole était très élevé.
On reparle du travail le 1er mai. Pourquoi ? Parce que le gouvernement va présenter ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour autoriser boulangers et fleuristes, mais seulement eux, à faire travailler leurs salariés ce jour-là, mais seulement à partir de l'année prochaine, donc pas pour ce 1er mai, vendredi. En attendant, ce sont trois associations, dont Yuka et Foodwatch, qui lancent une pétition pour demander au gouvernement de mieux encadrer la publicité et même tout le marketing autour des produits ultra transformés, qui représentent quand même jusqu'à 60% de l'offre alimentaire en France, comme nous l'explique Antonin Audion.
Savoir plus facilement si un produit est ultra transformé, c'est ce que demande Julie Chapon, cofondatrice de l'application Yuka.
Un étiquetage obligatoire en face avant des emballages. Un bandeau noir au Nutri-Score pour tous les produits qui sont ultra transformés.
Car il est parfois difficile pour le consommateur de savoir ce qu'est un produit ultra transformé.
C'est des produits qui contiennent des ingrédients qu'on n'aurait pas dans sa cuisine. Par exemple, dans sa cuisine, on va utiliser du sucre pour faire un gâteau. Dans un produit ultra transformé, on va utiliser du sirop de glucose-fructose. C'est important pour les consommateurs de pouvoir les identifier parce que c'est pas si évident. Parfois, il y a des produits très similaires. Et puis, en fait, quand on regarde dans le détail, il y en a un qui va être ultra transformé et pas l'autre.
D'autres pays ont déjà pris des mesures contre ces produits qui pourraient inspirer une réglementation française, comme l'explique la députée écologiste Sabrina Sebaï.
En Angleterre, ils ont décidé d'encadrer la publicité. Donc, de 6h à 21h, il n'y a plus de publicité des aliments ultra transformés en direction de la jeunesse. Parce qu'on sait que c'est justement par le biais du marketing, par le biais finalement de toutes ces publicités, qu'on incite les plus jeunes à consommer ces aliments ultra transformés qui provoquent de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des diabètes de type 2.
Le mois dernier, un premier n'a pas été franchi avec l'interdiction des sucres ajoutés dans l'alimentation destinée aux enfants de moins de 3 ans.
Il est 8h07, on est au lendemain ce matin de la victoire du Paris Saint-Germain, 5 buts à 4 contre le Bayern de Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions, et la presse espagnole se demande ce matin si nous n'avons pas assisté hier soir au plus grand match tout simplement de tous les temps. C'était assurément le plus grand match européen, disent les Anglais, le match de l'année selon les Italiens, comme si le score était anecdotique si on en croit l'entraîneur parisien Luis Enrique.
On a mérité gagner ce match. On a mérité faire match nul et on a mérité aussi de perdre le match.
Jean-Louis Tour, c'est vous qui avez commenté ce match incroyable hier soir donc sur RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin, et qu'on soit supporter du PSG ou pas, on a hâte d'être mercredi prochain pour le match retour. Mais alors finalement, il y aura un seul but d'avance pour les Parisiens.
Oui, et dans la tête des joueurs, comme dans celle de Vitinha, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il a dit juste après le match hier soir, car vu le potentiel offensif du Bayern, à tout moment, cet écart peut être comblé. Globalement, difficile quand même d'imaginer un scénario différent mercredi prochain. Faut se préparer à un nouveau combat de boxe où les coups sont remplacés par des buts. Luis Enrique a d'ailleurs révélé une discussion avec son staff technique. Pour eux, il faudra marquer au moins 3 fois à Munich pour espérer se qualifier. C'est dire si niveau spectacle, le match retour s'annonce aussi prometteur que l'aller. Et pour ajouter de l'émotion aux supporters parisien, ils retrouveront le stade du sacre de la saison dernière et cette finale de Ligue des Champions où déjà Paris avait marqué 5 buts à l'Inter. D'ici à mercredi, la priorité sera donnée à la récupération. Luis Enrique devrait largement faire tourner son équipe contre Lorient samedi en championnat, et on scrutera l'infirmerie. Kvaratskhelia est apparu diminué en deuxième période, et plus inquiétant, Achraf Hakimi souffrait d'une lésion musculaire en fin de match, l'empêchant de courir. Les examens du jour en diront plus sur une éventuelle indisponibilité.
Voilà, Jean-Louis Tour en direct ce matin sur RMC. On va continuer évidemment d'en parler ce matin sur RMC de cette victoire du PSG. En attendant la demi-finale retour, il y aura l'autre demi ce soir qui va opposer l'Atlético à Arsenal pour la dernière campagne européenne d'Antoine Griezmann. Mais il n'y a pas que le PSG, il y a une autre performance qui est historique ce matin. Bourg-en-Bresse, voilà, c'est le premier sacre européen pour les basketteurs de Bourg-en-Bresse qui ont remporté l'Eurocoupe. C'est la petite coupe d'Europe au bout d'une finale pleine de suspense face aux Turcs de Beşiktaş. La salle était trop petite hier soir. Il y avait quand même 4 fan zones dans la ville et il y a une réception, des festivités qui sont prévues à la mi-journée à Bourg-en-Bresse.
Bah, moi, je veux bien. Hein, moi, ça fait des années de journalisme où on nous dit qu'il faut dire Bourg-en-Bresse. Et l'autre, il arrive, Bourg-en-Bresse. Merci Quentin Vinet. C'est le journal de 8h, il est 8h10. Et bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
Courte nuit hein, pour Daniel.
Absolument, je vois que tout le monde n'a pas regardé le foot hier. J'étais persuadé, il y avait des gens dans une salle de basket pour voir une autre belle performance. Ouais. Mais que se passe-t-il ?
Avec pas de chance pour
Bourg-en-Bresse. Moi, j'étais persuadé que le monde entier était devant le match hier.
Moi, j'étais avec vous, Daniel, avec l'after aussi. Bon, il est là ce matin, il y a des... PSG Bayern, on se dit, on va devoir le commenter, c'est une demi-finale. Et puis, il y a des PSG Bayern comme celui d'hier. 5-4 pour les Parisiens au terme d'une demi-finale. Allez, un score jamais vu à ce stade. Écoutez les supporters.
J'ai même pas les mots, quel match historique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a vu là. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Hein.
C'était incroyable le scénario, on l'attendait vraiment pas. Quel moment.
Alors Daniel, on a entendu tous les superlatifs, hein, le match de légende, match historique. Toi, je crois que t'as vu quelques matchs de foot dans ta vie. T'avais déjà vu un truc comme ça?
Mais écoute, enfin, oui, effectivement, les superlatifs, tu peux les enfiler comme des perles. Tu ferais un très beau collier ce matin. Maintenant, je sais pas comment faire un classement. Je sais pas comment aller chercher. Et surtout, est-ce que c'est utile d'aller faire un classement? Est-ce que c'est le plus beau? C'est le plus beau de l'année? Oui. Après, ça va te paraître complètement fou, mais j'imagine que les Portugais se disent qu'il y a 2 tours, le Sporting Bodø/Glimt, où ils avaient perdu 4-0 l'aller, ils ont gagné 5-0 le retour. Pour eux, ça a dû être une soirée complètement dingo. Là, en tant que spectateur neutre, parce que souvent le foot, ça va aussi avec le cœur qui bat pour une équipe, j'imagine que oui, une personne en Angleterre, en Italie, en Espagne, elle a vu un match qu'elle n'avait pas vu depuis très 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 longtemps. Maintenant, la Ligue des Champions, ces dernières années, nous a souvent fait des spectacles de ce genre-là. Là, le score 5-4, c'est vrai que c'est peu banal. Maintenant, il faut voir dans un match retour. Parce que le match retour, il y a une dimension supplémentaire qui est celle du coup près qui tombe avec un éliminé. Là, tu es à la fin de ce match, dans l'attente, est-ce que le match retour va être aussi bien? Et surtout, que va-t-il se passer? Quelle va être l'issue?
Parce
que là,
tu n'as pas l'issue. Mais bon,
là, en fait, tu as un spectacle. Mais le sport, c'est aussi une autre dimension. C'est, il y a un gagnant, il y a un perdant. Là, pour l'instant, on n'a pas le gagnant, on n'a pas le perdant encore. On ne sait pas l'issue. Ça se trouve, tu auras un 2-1 avec un je sais pas, un partout pendant toute la partie. Le but décisif se marque dans les arrêts de jeu et ce sera encore une autre dimension émotionnelle et dramatique. Mais le match qu'on a vu ce soir, le match qu'on a vu ce soir, évidemment, on va s'en souvenir pendant très 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 longtemps. Ça, c'est
hier soir, mais la nuit a été courte, Daniel.
Je sais pas, j'arrive encore à parler correctement parce que ça va, j'ai beaucoup de mal.
Tout est très clair. Est-ce que c'est le meilleur PSG de l'histoire qu'on voit en ce moment?
Dans l'histoire du PSG?
Ouais.
Ah oui, bien sûr.
Ça veut dire meilleur que l'année dernière?
Ah ben moi, ça fait un petit moment que je le dis que ce PSG est meilleur que celui de l'année dernière. Il est habité par une confiance qui le rend quasi invincible parce que si on se pose, on revoit le match tranquillement, il est possible qu'on trouve le Bayern quand même meilleur. Dans la maîtrise, dans le nombre d'occasions, je pense qu'on mettra bout à bout un plus grand nombre de joueurs qui ont été bons côté Bayern. Mais ce PSG, il est habité par une confiance absolument dingue. Quand il attaque, quand il est dans ses phases de transition où il récupère les ballons bas pour se projeter et pour attaquer, il a une capacité à être tranchant qui est assez sidérante. On a eu l'impression même à un moment dans le match que chaque action pouvait se transformer en but. Et quand il y avait 5-2. Je connais ton amour pour le PSG. Je pense qu'au moment où il y a eu 5-2, dans ton canapé, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe?
On va leur remettre 7,
on va leur remettre 8. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qui va se passer?
Non, c'est vrai.
Hein, voilà, je savais. J'ai lu à distance dans tes pensées.
Alors, on a beaucoup parlé du rythme, de la fatigue des Parisiens en début de saison, après la saison dernière, le sacre, la Coupe du Monde des clubs, etc. On nous a beaucoup dit, mais vous verrez, ils seront en forme au printemps quand ce sera important. C'est le cas, là. Pour le coup, on a le pari réussi d'Enrique encore.
Bah, le PSG a la particularité de pas avoir de championnat. Donc, en fait, c'était clair dès le début. On savait ce qui allait se passer. La première partie jusqu'au mois de décembre, elle n'existerait pas. On aurait des équipes B, des équipes C, des mélanges. En fait, tout serait fait pour que physiquement les joueurs soient prêts dans la deuxième partie de saison. C'est exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont fait, ils ont inventé un nouveau concept. C'est la prépa à l'envers, en fait. Ils ont préparé au mois de janvier, février, pour être au top, pour être au top maintenant. Je sais pas, c'est pas forcément dû à l'entraîneur. C'est les circonstances qui ont fait que le PSG d'abord a la possibilité de faire ça, parce qu'elle a pas de rival dans le championnat, parce que les matchs elle peut les gagner même avec une équipe B en Ligue 1. Donc ça lui permet de tout préparer physiquement pour être prêt maintenant, quoi.
Merci Daniel. Il y a une petite sieste de prévue.
Ouais, parce que mine de rien, ce soir on a encore une demi-finale de Ligue des Champions. Et demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même très très bien.
Oui, soirée spéciale, deuxième demi-finale,
aller de la Ligue des Champions. Mine de rien.
À 21h, il y a Atlético Madrid et Arsenal, suivi de l'after foot, des nuits du Casar enchaîné, ça c'est jusqu'à 1h30. Et effectivement, on n'oublie pas Strasbourg contre le Rayo Vallecano.
Absolument.
En demi-finale de Ligue Europa Conférence, on a de la chance.
C'est chargé en ce moment.
En Coupe d'Europe, exactement. On a un très très beau mois d'avril, début mai. Bonne journée, Daniel. Il est 8h15 sur RMC, RMC Story.
Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour Mathieu Béliard. Welcome everybody, all the friends on RMC. Car ce matin, on part chez vous Mathieu. Oui. Je vous emmène à les États-Unis. Le roi Charles III est en visite officielle pour 4 jours. Le roi Charles, il est chez vous. Et le FBI est évidemment sur les dents. Mais bon, heureusement, si un tireur vise à nouveau Donald Trump, il pourra s'abriter derrière les oreilles de Charles III. Ça fait des boucliers pour toute la famille. Oh, merci, Dumbo. Trump va être très attentif à la sécurité. Oh, votre majesté, votre épouse aussi a été victime d'un attentat. Camilla ? Non, non. Oh, suis-je bête ? L'accident du pont de l'Alma, c'est pour ça. Mais non, même pas ! Et vous n'êtes pas venu avec votre frère, le Prince Andrew ? Great boy, I love that boy, Prince Andrew, great boy. Je l'ai souvent croisé chez mon ami Jeffrey. Oui, je sais, je sais, je sais. J'avais un cadeau pour lui. Tant pis, Jennifer, tu peux retourner au lycée, Andrew ne viendra pas. Et les deux dirigeants vont évidemment parler de l'Iran. Parce que, c'est la guerre là-bas, Mathieu.
Ah ouais ?
C'est la guerre. It is war. Oh yes, ah yes, oh là là, what a story up there, it's war. Et l'Iran menace de couper les câbles internet qui sont au fond de la mer dans le détroit d'Hormuz. Alors, la guerre avait commencé avec des menaces nucléaires quand même. Hein. Après, les Mollahs, ils ont fait une réunion budget, ils se sont dit, bon, en fait, on va plutôt bloquer les bateaux. Et maintenant, on en est à, je vais te couper internet. En fait, le nouvel ayatollah, c'est ma mère. C'est quand j'avais 18 ans, c'était pareil. T'arrêtes d'embêter ton frère ou je te coupe internet. Et on pouvait plus télécharger des photos de Sarah Michelle Gellar. Hein, Mathieu ? Hein, Victor ? Eh oui. En tout cas, aux Philippines et au Mali, ils doivent être en PLS. Oh non, pas internet ! Comment on va faire pour arnaquer des boumeuses occidentales ? Pendant qu'à Nice, il y a Catherine, 67 ans, qui dit « Mais je comprends pas, Brad Pitt a arrêté de m'écrire. J'espère qu'il va bien. Je m'apprêtais à lui envoyer 50 000 euros pour son hospitalisation. J'espère que ça va. » Victor, il est très perturbé par Sarah Michelle Gellar. Il y a
mais c'est pas ma génération.
Il ne voit pas qui c'est.
Buffy
et les vampires.
Je suis avec vous, Arnaud, là-dessus.
En fait, on a vieilli, on s'en rend pas compte.
Buffy contre les vampires.
Oui. Pardon. Oh, ça va. Je suis pas le seul à avoir pas
de matin. Attention, c'est le masque et la plume.
Le gouvernement a décidé de renommer les EHPAD, ils s'appelleront désormais Maison France Autonomie. Et oui, parce qu'en fait, ce qui n'allait pas dans les EHPAD, c'était le nom. Voilà. Donc voilà. Ce sera toujours aussi cher pour trop peu de place, les gens seront toujours mal nourris et maltraités, mais ce sera plus joli de dire « Les enfants, c'est dimanche, on va voir mamie à la Maison France Autonomie.
Mais mamie, elle est morte. »
Ah bon ? T'es sûr ? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été la voir. Macron, il va être fier de son truc, vous avez vu ? On a remplacé le mot « dépendance » par le mot « autonomie » et le problème est réglé. Merci qui ? Merci France Président. Elle est bien France Brigitte. On va France manger dans un France nourriture. Tiens, mets France Radio. Radio France, tu veux dire ? Oui, oh, France Musique, pour écouter France Gall. Alors c'est McKinsey qui a trouvé le nom. Les gars, on doit livrer une propale de rebranding pour les EHPAD. La marque a perdu 76% de positive opinions depuis Orpea. Alors je veux un effet waouh, ok ? Pas de bullshit, je veux qu'on pense à l'expérience client. Mike ?
Oui, alors eh bien, écoute Mike, j'en parlais encore à Mike hier, pour donner vraiment le côté personnes âgées, on suggérait France 3.
Non, ok, c'est disruptif, on a le ressenti. Très bien, j'envoie la facture. On prend quoi, 30 millions ? Alors, il y a un autre changement de nom à prévoir. La Poste va devenir France Courrier. Le Tour de France va devenir France Dopage. Le Bois de Boulogne va devenir France Brésil. Le Trésor public va devenir France Raquette, comme Roland Garros. Et allez, France Béliard, on enchaîne.
Une pétition qui demande l'annulation de la tournée de concert de Patrick Bruel suite à des accusations de violence sexuelle.
Oui, la pétition a été lancée il y a quelques jours et Brigitte Macron n'a toujours pas traité les féministes de sale conne.
Ouais.
Je pense qu'à l'Élysée, on fait tout pour lui cacher l'info, en fait, par peur du dérapage. Elle essaye de regarder l'actualité. Emmanuel, il y a Internet qui marche plus, il n'y a même pas la 4G. Ah oui, oh là là, quelle histoire ça aussi. Tu sais qu'on est passé chez SFR. Ah bon, d'accord, ok. Tu me passes Voici ? Pourquoi Voici ? Tu veux pas lire plutôt Santé Magazine, hein? Ou Notre Temps? Regarde, il y a Cyril Ferraud en couverture. Tu l'aimes bien, Cyril Ferraud? Oh, ça va! Alors, avec cette histoire de Patrick Bruel, tout le monde se planque dans le showbiz, hein, de peur de voir ressortir les vieux dossiers. Vianney, il s'est enfermé dans une cabane en bois. C'est pas pour composer un album, hein, qu'il est dans la forêt. C'est par peur d'un MeToo. Parce que, au quand j'avais 16 ans, un jour j'ai bu un demi-kir. Alors j'étais un peu pompé. J'ai demandé un baiser à Maud. Mais c'était sans être marié, comme le veut le Seigneur Jésus. Et puis je vis avec ma honte. Alors je fais de la menuiserie. Ça, c'est les chevilles de 14. Oui, bah, remets-toi, c'est pas si grave. Oh là là.
Ah. Bravo, allez, Arnaud Demange. Merci, Arnaud. Arnaud, qu'on retrouve tous les jours. Et en podcast, quand on le veut, hein, à tout moment de la journée, de la nuit, sur l'application RMC, sur scène, par exemple, le 14 mai à Paris, au solo.
Eh ouais.
Et en solo?
Non, pas non en solo.
Ah, ok, d'accord.
En duo. Mais c'est bien aussi.
J'ai cru que ça tomberait juste et, non, ouais, et puis raté.
Mais non, mais ça fait un joli rebond.
8h24 sur RMC, RMC Story. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV, Marie Chantrey qui reçoit Sébastien Chenu, le vice-président du RN, député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie, il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes, je le rappelle, vice-président du RN, député du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets à aborder ce matin, mais je le disais, ces résultats de Total qui viennent à l'instant de tomber, des résultats du premier trimestre avec un bénéfice net en très très forte hausse, 5,4 milliards de dollars, soit plus d'un milliard de dollars de profit en plus sur un an, en partie grâce à la crise au Moyen-Orient et un cours du brut, on le sait, qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que vous considérez, au vu de ces chiffres ce matin, Sébastien Chenu, que Total fait aussi partie de ces profiteurs de guerre que vous dénoncez?
Bah, ceux qui font du profit sont les marchés financiers. En réalité, plus que les pétroliers, encore davantage, ce sont les marchés qui, avec les fluctuations du pétrole aujourd'hui, sont eux les profiteurs de cette crise-là.
Et de fait, fait profiter.
Et de façon, j'allais dire en seconde main, les pétroliers eux-mêmes. Mais sur les pétroliers, il y a une capacité à pouvoir faire bouger un certain nombre de lignes. Mais sur les marchés financiers, on voit bien que eux, ce sont les premiers qui en profitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait des mesures qui soient structurelles. Sinon, évidemment, les choses sont très déséquilibrées. Les consommateurs payent ces augmentations à la pompe et puis se retrouvent sans compensation ou sans possibilité de pouvoir remplir leur voiture de carburant.
Et on
d'une
le connaît,
façon,
ces mesures structurelles de la part du RN.
Bien
vous
sûr.
Le réclamez depuis de nombreuses semaines, la baisse de la TVA. Ça, on va en parler.
Oui.
Mais quand vous voyez ces chiffres, encore une fois, avec un patron de Total, Patrick Pouyanné, qui encore ces derniers jours alerté sur les risques de pénurie, un gouvernement qui le tense en disant en gros vous sortez un peu de votre rôle, est-ce que vous dites finalement peut-être qu'un geste patriotique de la part de Total est à venir quand on voit encore une fois des chiffres très impressionnants?
Non mais on peut contrôler des marges ou on peut évidemment le faire sur un temps, j'allais dire relativement court, parce que attention, si on le fait sur un temps beaucoup trop long, on importe le pétrole, on aura des effets pervers sur les importations. Donc on peut demander effectivement un geste patriotique à un moment aux pétroliers. On peut évidemment avoir quelques obligations sur le déstockage, notamment du pétrole au bénéfice du marché intérieur. producteurs à un prix qui soit acceptable, c'est-à-dire pas le prix du marché, mais le prix du stockage du pétrole lorsqu'ils l'ont acheté. Ça, on peut le faire. Mais attention, comme on importe beaucoup de pétrole, à ne pas se retrouver dans des difficultés, évidemment, d'approvisionnement. C'est la raison pour laquelle nous, on pense que ce sont des mesures structurelles qu'il faut initier pour le pays. Mesures structurelles qui sont sincèrement initiées par tous les autres pays européens, avec différentes formes.
Certains y sont revenus et avec un coût pour nos finances publiques. Aujourd'hui, le gouvernement le dit, que nous ne pouvons pas assumer. La baisse de la TVA que vous prenez, c'est 12 milliards d'euros par an. Aujourd'hui,
on peut y venir.
Sébastien Lecornu dit que ce n'est pas possible. Juste sur la mesure structurelle, juste s'arrêter sur Total. Raffineur, industriel, ça c'est une partie de son métier, j'ai envie de dire entre guillemets, mais aussi distributeur. Il a pris des mesures, il y a quelques semaines, en plafonnant les prix. Est-ce que finalement, quand vous voyez, encore une fois, pardonnez-moi, j'y reviens, sur ses super profits, il s'est acheté une bonne conduite?
Oui, mais enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est du bricolage. La réalité, par exemple, voyez-vous, une mesure qui aurait été une mesure à longue échéance, ce serait un investissement sur le raffinage. Mmh. On a très peu de raffineries en France. On aurait des investissements sur le raffinage et sur les raffineries. Ça, ce serait des mesures structurelles à longue échéance. Ce qu'il fait, c'est du bricolage, en réalité, monsieur Lecornu. Mais surtout, il n'a pas d'idée. Il laisse les Français à l'abandon.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Juste sur... Non, sur ce qu'a fait Total il y a quelques semaines. Les distributeurs, à la pompe, on l'a vu, dans leur station.
C'est un prix d'appel, tout à fait. C'est un prix d'appel, donc de toute façon, évidemment.
Peut-être anticipant de très bons résultats et en disant, regardez, on a fait ce geste-là.
Évidemment, nous ne sommes dupes de rien. Évidemment, nous ne sommes dupes de rien. Mais derrière, c'est à l'État aujourd'hui de prendre des mesures structurelles. Les pétroliers, de toute façon, c'est un prix d'appel pour les supermarchés, c'est un prix d'appel pour les grandes surfaces que celui de l'essence. Donc de toute façon, on sait très bien tout ça. Mais l'État, lui, doit prendre des mesures structurelles au bénéfice des Français.
Vous les pétroliers,
ils ne travaillent pas au bénéfice des Français.
Vous ne croyez pas Sébastien Lecornu quand il dit nos finances publiques ne permettent pas, notamment d'adopter la mesure que vous prenez, cette baisse de la TVA à 5,5 environ, pour un coût important, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Hier à l'Assemblée, vous étiez sans doute dans ses rangs, il y a eu cette question d'un de vos députés, la réponse du ministre de l'économie qui a parlé de misérabilisme de votre part, d'exagération, de contre-vérité totale en disant en gros à votre député, travaillez un peu, considérant que cette mesure est totalement inapplicable.
Là. Roland Lescure parle de misérabilisme lorsque nos députés, c'était Édouard Jordan, nouveau député de l'Aude qui a succédé à celui qui est maintenant maire de Carcassonne, Christophe Barthès, lui a parlé effectivement de notre proposition de baisser la TVA. Le ministre de l'économie dit, si vous faites du misérabilisme, enfin sincèrement, les Français qui bossent, qui ont besoin de leur voiture, qui remplissent leur réservoir tous les jours pour aller travailler, c'est pas du misérabilisme, c'est la vie réelle. Alors je veux bien qu'en Macronie, on regarde tout ça de haut avec beaucoup de mépris, mais nous on essaye de trouver des idées concrètes pour faire avancer les choses.
Ce qu'on vous reproche sur cette mesure de la baisse de la TVA, c'est que ça concernerait des millions, tous les Français.
Et
on pointe du doigt par ces Français pas modestes, justement,
pas
qui peuvent se payer un 4x4, un SUV et qui vont en week-end à la campagne.
C'est pas parce qu'il y aurait une minorité de Français qui se payent un 4x4 ou un SUV qu'on ne va pas prendre une mesure qui touche une immense majorité des Français qui, eux, roulent avec des voitures beaucoup plus modestes.
On peut vous opposer aussi,
argument, il est ridicule.
On peut vous opposer aussi, Sébastien Chenu, le fait qu'on ne peut pas décider seul. La France devrait demander l'accord des pays européens.
Elle
ne peut pas fonctionner.
J'y viens. On a déjà passé, ça a déjà été effectué, les baisses de TVA ont déjà été effectuées dans l'Union Européenne, ça s'est déjà fait. Il y a un certain nombre de pays qui l'ont déjà fait. Donc faut arrêter de nous dire que ce n'est pas possible. Moi ce que je vois, c'est un gouvernement qui est impuissant, qui a zéro idée. La dernière idée qu'ils aient eue, c'était sincèrement faire un prêt aux entreprises pour payer leur essence. Enfin, je sais pas si on peut faire plus ridicule en matière de logique économique, un prêt qui va être remboursé avec des intérêts, donc en fait les entreprises vont payer des intérêts pour se payer de l'essence.
Mais
donc,
des aides ciblées aussi,
donc, au secours.
Près de 3 millions de travailleurs modestes.
Ça coûte très cher d'ailleurs. Ça coûte très cher des aides ciblées et ça ne résout rien. Est-ce qu'on va se dire que dans notre pays, on peut avoir des mesures structurelles à court, moyen, long terme comme nous les proposons? Nous, ça fait longtemps qu'on propose cette baisse de la TVA. C'est pas sorti avec la crise actuelle au Moyen-Orient. C'était déjà dans le programme de Marine Le Pen en 2022. Baisse de la TVA, baisse de la TICPE. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, nous, on propose une mesure qui, dans le temps, puisse être amortie aussi. Vous dites, ça coûte très cher. Ça coûte 1 milliard d'euros. Par mois, c'est-à-dire 12 milliards d'euros par an, à peu près.
En effet, ça a été chiffré.
C'est une mesure.
Et par des instituts et par le gouvernement.
Voilà, c'est une mesure qui est tout à fait possible, acceptable, entendable, supportable par l'État, à condition, évidemment, que l'État fasse des économies ailleurs. Or, moi, je vois dans le projet de budget que nous avons commencé à étudier en début de semaine à l'Assemblée nationale, il y a encore une hausse, 0,2%, des dépenses. Donc, évidemment, tant que le gouvernement ne baisse pas la dépense publique ailleurs, eh bien, ça ne peut pas profiter aux Français.
Donc, à ceux qui vous disent démagogie, impossibilisme de mettre en place, vous dites, faites des économies ailleurs.
Ce sont des choix à faire. Nous, on considère qu'il y a des choix à faire en matière d'économie ailleurs, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les médicales d'État, que ce soit les agences d'État, que ce soit les aides sociales. On a déjà proposé dans un plan d'économie des milliards d'euros d'économie.
Et
bénéficiera à qui ? Aux classes populaires, aux Français qui ont besoin de leur voiture.
Et ce sera sans doute l'objet, évidemment, de votre programme pour la présidentielle. Sébastien Chenu, j'y viens, parce que la présidentielle 2027, vous avez cette petite formule, tout le monde y pense. Cette expression est peut-être encore un peu plus vraie dans votre parti. Quand on voit notamment les déclarations de Marine Le Pen, votre patronne hier, à nos confrères de l'AFP, elle sait déjà qui elle veut affronter. Et je dois dire, personnellement, que j'ai été un peu surprise par ces déclarations. Elle le dit, je souhaite un second tour face au Bloc central. Elle va même un peu plus loin s'ils arrivent à avoir un candidat commun. Dans cette configuration, Édouard Philippe a un certain nombre de qualités mathématiques. Je la cite, c'est de l'adoubement ou de la pure stratégie politique. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire en désignant Édouard Philippe ?
Marine Le Pen a toujours cette forme de sincérité qu'on peut lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle dit « je préfère gagner sur le choix que sur le rejet ». Face à Jean-Luc Mélenchon, ce serait une élection qui se construirait sur le rejet. Le rejet de Jean-Luc Mélenchon, l'homme de la violence, l'homme de l'antisémitisme, l'homme qui fait peur, l'homme qui ruinerait le pays. Donc ce serait une élection sur le rejet. Face à Édouard Philippe, qui est le plus madré, le plus expérimenté des candidats du Bloc central, ce serait une élection de choix. Vous savez, Édouard Philippe, c'est
une élection beaucoup plus compliquée aussi. Vous comprenez mon étonnement et ma surprise. C'est-à-dire que les derniers sondages, notamment quand Jordan Bardella est testé, Jordan Bardella est défait face à Édouard Philippe.
C'est pas la difficulté qui nous fait peur.
Sondage un an avant la présidentielle.
C'est pas la difficulté qui nous fait peur en ce qui nous concerne. Moi, je pense que Édouard Philippe, c'est le fiasco avec l'air sérieux. Mmh. Si vous voulez, c'est l'air sérieux de l'ancien Premier ministre, mais dont le bilan est un fiasco total. Baisse de la croissance, hausse de la CSG, les 80 kilomètres heure, les gilets jaunes, la retraite à 67
Donc
ans.
Vous dites même pas peur face à Édouard Philippe, même si les sondages vous donnent perdant face au second tour face à lui.
Aucune peur, vous mais surtout la capacité pour les Français de choisir réellement deux programmes qui soient très différents, deux programmes de société, et puis effectivement la capacité pour les Français de juger un homme qui a déjà un bilan. Édouard Philippe, on l'a vu aller en Algérie, ne rien demander à Tebboune les deux fois où il l'a rencontré.
Donc c'est quoi, c'est plus excitant? Juste, je vous posais la question, c'est quoi
clair.
Stratégie politique
c'est
aussi. Est-ce qu'il y a une forme de baiser de la mort, en fait, on a envie de dire?
Non mais c'est plus clair parce que derrière, il faut aussi avoir une majorité pour gouverner. Et nous pensons que lorsque les choix sont clairs, lorsque les Français s'expriment dans la clarté, pas dans le bidouillage, on se souvient les bidouillages du Bloc central pour gagner lors de la dissolution, eh bien ensuite, c'est plus non pas facile, c'est jamais facile de mener une politique, mais c'est plus clair, c'est plus transparent pour les Français de savoir où on va. Au moins, il n'y a pas tromperie sur la marchandise lorsque vous avez le choix entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. On sait ce que chacun propose, alors qu'avec Jean-Luc Mélenchon, c'est automatiquement tout de suite le rejet.
Et trop facile,
rien n'est jamais facile en politique.
Votre parti se met en ordre de bataille. Vous confirmez l'information du Figaro, vous avez trouvé vos nouveaux locaux pour la campagne et votre nouveau siège de fête.
Oui, on est en train de s'organiser, que ce soit des locaux, que ce soit un programme présidentiel, que ce soit de nouvelles propositions aussi, en plus de celles que nous portons depuis longtemps, non seulement lors des élections, mais aussi à l'Assemblée nationale.
Que ce soit aussi un prêt auprès des banques, qui semble toujours aussi compliqué à contracter pour le parti Rassemblement National.
Oui,
il y a un problème démocratique de votre point de vue.
C'est le moins qu'on puisse dire. J'entendais d'ailleurs le président de la Fédération Française des Banques ce matin qui disait que c'est quand même un problème effectivement que les banques ne prêtent pas au Rassemblement National.
Mais vous semblez ne pas être le seul parti concerné par cette difficulté.
Eh bien, c'est un problème aussi si c'est le cas pour les autres. La démocratie, ça a un coût. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait indiqué qu'il créerait la banque de la démocratie. Évidemment, encore une promesse enterrée.
Ça n'est pas allé au bout, en effet.
Qui peut accepter que le premier parti de France, en nombre d'adhérents, en nombre de parlementaires, en score aux dernières élections, en sondage aux prochaines élections, ne puisse pas se financer, être financé? Sincèrement, c'est totalement indécent dans une démocratie comme la France.
Un an avant l'élection, vos sentiments, prédictions disent que vous pourrez un jour signer avec une banque française ou vous allez devoir vous tourner vers des banques étrangères?
Aujourd'hui, nous faisons le tour des banques françaises, c'est la priorité. Et nous espérons bien qu'une banque française contribuera au jeu démocratique. Mais d'ailleurs, moi je dis à Monsieur Philippe, à Monsieur Attal, qui se gargarisent toujours de grands mots, de grandes déclarations sur la démocratie, c'est à eux de demander aux banques françaises de financer tous les candidats aux élections présidentielles
qu'ils pèsent aussi avec vous pour obtenir ces...
Mais c'est leur boulot, c'est eux qui ont la main d'ailleurs, qui ont la relation avec toutes ces banques.
Le message est passé.
Attal et Philippe, c'est les deux faces d'une même pièce, la face gauche, la face droite, c'est les mêmes en réalité. D'un côté, c'est le fiasco d'Edouard Philippe, de l'autre côté, c'est Oliver Twist, mais c'est les mêmes en réalité.
Ah, vous, c'est Oliver Twist, pour Marine Le Pen, hier, c'était Cosette. À chacun son expression du matin. Marine Le Pen qui, hier aussi, à nos confrères de l'AFP, tacle violemment Bruno Retailleau, candidat déclaré Les Républicains à la présidentielle. Ce sera le Zemmour de 2027. Monsieur Plus, son pari pour le patron des Républicains qui va se radicaliser. Un bilan à Beauvau juste pathétique. Franchement, c'est quoi de tirer ce tel portrait? Vous y voyez une menace ou pas du tout?
Non, mais Monsieur Retailleau, c'est surtout une illusion. Quand il a été aux responsabilités, comme il dit souvent, comme ministre de l'Intérieur, son bilan, effectivement, est pathétique. Et surtout, il a validé les logiques macronistes, notamment les hausses d'impôts. Je vous rappelle que lorsqu'il était ministre du gouvernement, il y avait 30 milliards de hausses d'impôts dans le budget. Donc, si vous voulez, c'est la crédibilité ramenée à zéro. Donc, effectivement, Monsieur Retailleau, il va devoir brasser du vent pour essayer d'exister. Donc, non seulement il ne nous fait pas peur, mais c'est le vote inutile par excellence, le vote Bruno Retailleau. Nous,
mais
bien
ses
électeurs, voter directement pour le candidat du Rassemblement National.
Justement, parce que vous partagez un certain nombre de diagnostics, notamment vis-à-vis de notre relation avec l'Algérie. Ces propos du président de la République qui ont fait réagir, d'ailleurs il s'est senti directement visé, l'ancien ministre de l'Intérieur, ces maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Ces propos vous ont choqué de la part du chef de l'État?
Oui, parce que en fait, le chef de l'État dénonce souvent des postures ou des positions de ses adversaires, mais lui, il s'exprime désormais comme Donald Trump. On connaissait son mépris, sa capacité à insulter ses adversaires politiques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la forme qui est choquante. L'expression du président de la République.
Il y a insulte, maboule, non plus.
L'expression du président de la République ne convient pas à son statut, mais surtout sur le fond, on peut ouvrir ce débat. Est-ce que des médecins étrangers doivent pouvoir effectivement passer un diplôme, un contrôle, une validation dans l'ordre des médecins pour exercer en France? Nous pensons que oui.
Vous pensez que oui, mais vous dites aussi que on a besoin de ces médecins étrangers hors Union européenne pour venir travailler sur notre sol.
Non, on a surtout besoin de fabriquer des médecins en France. C'est-à-dire que depuis des années, on nous dit qu'il y a des secteurs en tension. Le monde médical en fait partie. Et depuis des années, on demande à des gens venus du bout du monde de venir exercer ici. Fabriquons des médecins en France et nous n'aurons plus ce genre de problème. D'ailleurs, je vous le dis, ces pays dont nous importons des médecins finiront par nous en vouloir de leur prendre quelque part leur cerveau, leur énergie, etc. Fabriquons des médecins ici. Ça va faire 10 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République. On ne forme toujours pas 10 000 médecins par an.
Là-dessus, Sébastien Chenu, sur ce diagnostic, vous le partagez avec l'ancien ministre de l'Intérieur, mais force est de constater qu'à Beauvau, sa stratégie du bras de fer avec l'Algérie n'a pas fonctionné. Et on apprend dans le même temps que Laurent Nunez, son remplaçant, a réussi à renouer un dialogue avec l'Algérie. On apprend aussi que les expulsions de la France vers l'Algérie ont redémarré ces dernières semaines.
Écoutez, madame.
Certes, prudemment et pas dans un nombre significatif, mais il y a eu de nouvelles expulsions et des laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie.
Combien de laissez-passer consulaires depuis le mois de janvier? Combien de laissez-passer consulaires ont été délivrés?
Pour le moment, le chiffre n'est pas rendu public.
Bien sûr,
est ridicule. Oui, mais entre zéro et peut-être ridicule, ce que vous considérez comme ridicule.
Ça a repris. Non, mais madame,
Est-ce que ce n'est pas finalement la technique
madame,
qui fonctionne?
C'est de l'ordre du symbolique. C'est ridicule. La réalité, c'est que lorsque Boualem Sansal est libéré, c'est parce que c'est l'Allemagne, la diplomatie allemande, qui a fait pression et qui parle. La réalité, c'est que Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a manqué tous les arbitrages sur l'Algérie. N'a pas été soutenu une seule fois. Il n'y a pas de bras de fer avec l'Algérie. On le sait, et Emmanuel Macron, à travers son expression,
il faut tout couper.
Nous dit,
il faut couper toutes nos relations.
Il ne s'agit pas de couper, il s'agit d'avoir un bras de fer. C'est-à-dire que si vous ne reprenez pas vos ressortissants qui sont des délinquants, vous n'aurez pas de visa. Ça, c'est la première des choses. Jamais ce bras de fer n'a été tenté. Macron nous le dit, il ne le tentera pas.
Sébastien Chenu, on arrive à la dernière minute de cet entretien. Une question sur ce rapport. Charles Lalonde, très, très discuté, très très commenté. Après 4 mois de travaux sous tension, les députés de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement de l'audiovisuel public va pouvoir être rendu public autour du 4 mai, je crois. Vous félicitez de cette nouvelle et par ailleurs, est-ce que vous considérez que ce qui a déjà été rendu public, fuité dans la presse comme on dit, va suffisamment loin ou pas?
Bon, d'abord, ce qui est important, c'est de voir que enfin ce rapport peut être édité, présenté, rendu public. J'ai vu que la gauche là, voulait absolument l'empêcher, voulait le censurer. C'est quand même des drôles de pratiques à gauche que de vouloir et que d'imaginer que le service public leur appartient et d'empêcher que la lumière soit faite et que
ça aurait été un scandale qu'il n'est pas.
Ça aurait été un scandale total. Parce que pourquoi? On parle de problèmes de neutralité, on parle de problèmes de conflit d'intérêts, on parle de problèmes de gabegie financière. Il faut que tout soit sur la table. Quand je vois d'ailleurs que de l'autre côté, vous avez les dirigeants de France Télévisions qui sont prêts à faire des procès à des humains. Humoriste, je veux dire.
Quand on voit les propos, en l'occurrence de l'humoriste Patrick Sébastien à l'encontre de Delphine Ernotte,
mais madame,
on
moi
peut
je suis,
comprendre
moi
sa démarche. Suis, franchement, c'est
je suis favorable
pas vraiment
à ce que la France
très élégant.
Jamais ne fasse de procès à des humoristes.
Mais vous voulez aller plus loin. Vous avez lancé une pétition pour privatiser le service public. Ça fait partie de la seconde
étape. C'est un autre débat. Ça, c'est, je veux dire, l'étage supérieur. D'abord, il y a un certain nombre de préconisations. On va les découvrir. Moi, je ne les connais pas, mais qui sont peut-être des préconisations anti-pantouflage, des préconisations qui permettraient d'assainir les finances publiques de France Télévisions. Il faut aller vers cela, puis ensuite nous irons vers une privatisation partielle, c'est ce que nous proposons.
Si vous arrivez évidemment au pouvoir.
Absolument.
Sébastien Chenu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Marie-Chantrée, c'était le face-à-face. Vous restez bien sur RMC dans quelques toutes petites secondes. C'est Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Sébastien Chenu était l'invité du Face à Face ce matin. Il est resté avec nous. Rebonjour Sébastien Chenu.
Bonjour.
Et Marine Le Pen voulait réagir à cette interview.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à... Écoutez, à tous les maboules. Non, pas de procès. Non. Sébastien Chenu, Monsieur Chenu a de l'humour, vous le savez. C'est Patrick Sébastien Chenu. Non, vous l'avez remarqué, Monsieur Macron, nous l'avons tous noté, c'est permis avec beaucoup, je dois le dire, de trivialité, de traiter de maboules les patriotes, tous ceux qui veulent durcir les relations avec l'Algérie. Mais pardonnez-moi, mais je trouve ce langage insultant, qui n'est pas digne, pardon, d'un chef de l'État.
Mais vous vous êtes senti visé ?
Tout à fait, mais monsieur de Malherbe, j'assume totalement, parce que si c'est être ma boule que de penser que les Algériens sont un danger pour la France, alors oui, je suis ma boule. Si c'est être ma boule de dire que les Algériens viennent chez nous pour nous voler notre argent, nos travail, nos femmes et nos traditions, alors oui, je revendique ma maboulitude.
Merci Madame Le Pen et tout de suite on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour Mathieu, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la voix est encore plus forte que l'augmentation des carburants. C'est parti pour les titres. Pour permettre un accord de paix entre Washington et Téhéran, Vladimir Poutine s'est proposé d'accueillir les 400 kilos d'uranium enrichi détenus par les Iraniens. C'est comme si pour protéger des enfants victimes de violences, les prêtres de Beit Haram se proposaient de les accueillir. Et puis après 144 ans de travaux, la cathédrale de Barcelone est enfin terminée, battant ainsi le record des travaux les plus longs jusqu'alors détenus par Paris avec Anne Hidalgo. Le livre de Gabriel Attal intitulé « Un homme libre » est sorti la semaine dernière. Philippe de Villiers souhaitait réagir.
Gabriel Attal, dans son livre, disons plutôt son torchon, dévoile ses ambitions présidentielles sans nous épargner aucun détail de son intimité, en particulier de sa vie de couple avec son compagnon et son désir d'avoir des enfants grâce à la gestation pour autrui. Pardon. Je dis pardon. Mais on va où là? Arrêtez la débauche, on a déjà été servi. Sarkozy, divorcé, un homme divorcé à l'Élysée. Macron, pas fichu de procréer. Sans parler à l'inverse de l'ayatollah Hollande avec son harem, ses 12 femmes et ses 24 maîtresses. Non mais monsieur Béard. C'est bien, si je suis venu, c'est tous les sous-fifs qui sont tous de la table. Si on laisse faire en 2027, la première dame sera quoi? Un tube à essai, c'est ça?
Merci à tous. Emmanuel Macron a attaqué, je cite, les maboules qui veulent qu'on se fâche avec l'Algérie en défendant les médecins venus des hors Union européenne. Oui. Plus du tiers viennent d'Algérie. Bonjour, monsieur le président.
Bonjour à toutes et à tous, à ceux et celles et ceux. Et bonjour au président, au vice-président Chenu. Écoutez, respectons ces médecins algériens qui font l'effort de venir en France de grâce. Vous imaginez, ils étaient médecins en Algérie avec le soleil, la joie de vivre des compatriotes jeunes, fringants, et ils font l'effort de venir en France. Et pourquoi? Pour aller faire du dépistage de cancer colorectal sur des vieux à Châteauroux?
Ouais, vu comme ça, effectivement.
Non, mais après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être maboule aussi pour s'infliger cela.
C'est vrai qu'ils viennent souvent pratiquer dans des zones qui n'attirent pas le personnel soignant, ce qu'on appelle les déserts médicaux.
Oui, c'est là où l'on comprend réellement la réalité, la générosité de ces gens. Moi, j'y suis passé à Châteauroux, 3 heures. J'y ai passé 3 heures à Châteauroux. Et je peux vous dire qu'il y en a déjà 2 de trop. Et je venais juste, disons-le, en touriste, entre guillemets. Alors, imaginez un peu si c'est pour examiner des mycoses sur des orteils de vieilles dames de 90 ans. Non, je vous dis, il faut être maboule pour accepter ça, oui.
Bon, alors merci, monsieur le président. Le Parc des Princes a vécu hier soir un match d'anthologie avec pas moins de 9 buts. Le PSG a battu le Bayern de Munich 5-4. Nous sommes avec le coach parisien Luis Enrique. Bonjour. Ça a été un très grand match.
Il est où les grands matchs? Les grands matchs pour le public, est où? Peut-être. Mais pour nous, c'est pas terrible. Marquer 5 buts. Moi, c'est bien, encore. Mais encaisser 4 buts. 4 buts, c'est pas bon pour nous, c'est éprouvant. Moi, entraîneur, coach, et j'ai souffert. J'avais l'impression d'être entraîneur de messe.
Vous avez gagné, c'est quand même ça qui compte, non?
Moi, c'est bien. D'accord, mais plutôt que 5-4, j'aurais préféré qu'on gagne 1-0, 5-4-1. 5-4-1, meilleur, ils ont joué. Ah, ça, ils ont joué, ils ont beaucoup joué. Mais de s'en penser, beaucoup trop d'énergie. Pourquoi? Pour un bout, pour pas grand-chose. Et en ce moment, vu le prix de l'énergie, c'est bien d'économiser, même si c'est vrai que nous, on fait les pleins au Qatar, on a des prix.
Ah, oui. Pour le match retour, vous le sentez comment?
Je suis à fond.
Oui, à fond derrière vos joueurs.
Non, je suis à fond, je suis à fond. Je suis à fond, il n'y a plus de voix, il y a trop gueulé sur les bandes de foule. Et mais c'est comme ça, toute l'année, de toute façon, il n'y a plus de voix, il faut que je voie le rhino.
Le rhino? Quel rhino?
Le rhino pour la voix.
Ah, l'auto-rhino.
Ouais, le rhino, je ne sais pas. Je ne connais pas plus que ça. Je ne sais pas s'il joue l'auto, le rhino, mais je vais voir le rhino.
Merci beaucoup.
Mais c'était une nouveauté pour le Karine Yari.
Ah oui, on a Luis
Enrique. Il aime le football. Chenu, il s'en fout. Chenu, non. Lui, il aime les humoristes. Patrick Sébastien Chenu.
Merci beaucoup. Merci Nicolas. Face à Cantelou, qu'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC. Et à tout moment. En podcast, bien sûr. Dans un instant, c'est les GG, les grandes gueules. Bonjour Alain, quel est le programme?
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Les grandes gueules, ça démarre dans un instant avec Fatima Hidbounois, la prof de français, Didier Giraud, l'agriculteur, Antoine Diers, le consultant juridique. On aura dans les GG, dans les grandes gueules, un TikToker, un homme des réseaux sociaux. Il s'appelle Christian. Et Christian, on l'appelle le justicier des réseaux sociaux, le justicier du métro. Vous savez, c'est lui qui filme les pickpockets et ensuite il les balance, c'est le cas de le dire, sur les réseaux sociaux pour qu'on les reconnaisse, qu'on fasse attention. Et puis, il les asperge de spray malodorant dans le métro même. Alors, c'est une méthode qui peut choquer. Il viendra s'en expliquer tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Et puis, on parlera du profit des pétroliers comme BP et Total. On évoquera aussi cette classe de Roubaix où un collégien a sorti un couteau parce que le prof lui avait confisqué son cahier. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.